Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue pour la 15e de Quoique, l'émission qui fait ce qu'elle peut. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 10 juin 2004, jour de la Saint-Landry. Et quand il fait beau à la Saint-Landry, bah c'est normal.
Bonne fête, Landry.
Vous aurez donc deviné facilement que le sujet d'aujourd'hui sera la pluie et le beau temps, sujet grave, éternel, qui agite les foules depuis la nuit des temps et qui n'a pas fini de les agiter. Les foules. Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien ?
Ça va.
Hein, donc vous voyez, il a fait beau aujourd'hui à la Saint-Landry, un peu lourd. Hein.
Un peu chaud, lourd. Ouais. Hein.
Parce que quand il fait pas beau à la Saint-Landry, bah c'est pas normal, c'est pas un temps de saison.
C'est trop beau parce qu'en plus, rien que pour l'émission, il a plu un petit peu. Comme ça, il a fait beau, il a plu, il a beau temps, c'est beau. Hein.
Oh, magnifique. Donc aujourd'hui...
Et comme il faisait beau à la Saint-Landry, j'ai pris une niçoise.
Ben, t'as bien fait, c'est très bon.
Oui, merci.
Alors avec nous aujourd'hui, Cray.
Oui.
Bonjour. Qui va nous expliquer comment il est devenu
Alors je suis pas vraiment devenu, mais en tout cas j'ai commencé à m'intéresser à la météorologie. La pluie et le beau temps, évidemment, tout de suite, je me suis dit, bon bah voilà, la pluie et le beau temps, hop, la météorologie. Logique, non ?
Ça se tient.
Ça se tient. Hein. Donc voilà, donc je me suis intéressé un petit peu à la météorologie. Alors comme moi je connais pas bien la télévision, parce que j'ai pas la télévision, et ben j'ai essayé de rassembler quand même mes souvenirs, et puis j'ai essayé de chercher ailleurs tout ce qui parlait de météorologie, et puis ben, donc je vais vous en parler. Voilà.
D'accord, bah tant mieux, t'es là pour ça.
Donc la météorologie qui a été inventée par un prêtre, l'abbé Théo.
La BTO,
oui, qui a inventé il y a longtemps.
D'accord, et bah Cray, bravo, bravo d'avance, merci, applaudis-le au lieu de dire des conneries, toi.
J'ai fait des recherches.
Ensuite, Flo, elle va nous parler donc d'un film sur la pluie et le Bhoutan.
Oui, enfin, c'est un film qui se passe au Bhoutan, ça s'appelle Magicien et Voyageurs des Magiciens. C'est Numa qui m'a suggéré le thème de la chronique. Le film a à peine commencé, il m'a tapé dans l'épaule, il me fait c'est génial, ça y est, tu l'as ton sujet de chronique, tu vas pouvoir parler de la pluie et du Bhoutan.
Ouais, ben c'est drôle, hein. On reconnaît bien là ton humour. Donc on va applaudir Flo. Et ensuite, ben, nous finirons par Numa. Oui, lui va nous parler d'une BD aujourd'hui.
Oui, une fois n'est pas coutume.
Oui, Neige dedans.
Neige dedans, et ça s'appelle L'Éternaute d'Alberto Brescia et de Osterheld.
D'accord, et ben on va applaudir Numa avant qu'il la fasse, parce qu'on ne sait pas après si on aura toujours envie.
Ah, mais c'est pas sûr. Ah.
Donc alors, je voudrais noter une petite chose avant de vous donner la parole, c'est que la dernière émission, on est devenu des stars internationales. On a réussi à faire plus de 200 tentatives de téléchargement. Alors, vous pouvez vous applaudir.
Non, eux.
Alors, c'est des tentatives. Hein. Tout le monde n'a pas téléchargé complètement.
Mais est-ce que c'est la même personne qui a raté un bon paquet de fois ? Est-ce qu'il faut vraiment l'applaudir dans ce cas-là ?
C'est possible. Alors, faut espérer que ça va continuer, mais ça, rien n'est moins sûr.
L'avenir nous le dira.
Voilà.
Ou Nostradamus.
Ben, on verra. Donc, nous allons commencer. Ah. Cray, à toi.
Je parle. Très bien. Donc, je vais commencer par une petite anecdote qui rappellera certainement des souvenirs à certains. Donc, hier matin, après avoir consulté la météorologie sur Internet, j'ai pris mon parapluie. Arrivé à mon bureau en sueur, sonné par un soleil de plomb, j'ai jeté avec rage le pépin dans un angle du bureau en médisant sur le foutu météorologiste qui avait prévu de la pluie pour tôt dans la matinée. Le soir, en partant, évidemment, Avec la chaleur de la journée, j'oublie le parapluie dans son misérable coin. Et en sortant du métro, je me tape 5 minutes de marche sous une pluie diluvienne. J'arrive trempé à la maison en hurlant contre ces imbéciles de météorologistes. Et pourtant, ce matin, au réveil, j'écoute distraitement la radio quand tout à coup, l'annonce des prévisions météorologiques me fait à nouveau tendre l'oreille. Qui n'a pas déjà vécu une telle anecdote ?
Je sais pas. Donc on peut lancer un sondage.
Évidemment, ça nous est tous arrivé d'écouter la météo, de suivre ses conseils et puis de se planter complètement. Enfin, c'est plutôt la météo qui s'est plantée, mais finalement, c'est nous qui en subissons les conséquences. Effectivement, de tout temps, de toute façon, l'homme a rêvé de pouvoir savoir le temps du lendemain, parce que c'est quand même bien pratique de savoir le temps qu'il fera le lendemain, parce que comme ça on peut faire...
Oui, parce que le temps de la journée, il suffit d'ouvrir ses volets.
Bah oui, voilà, ça quand même. Voilà, j'étais un peu con d'ailleurs ce matin-là, parce que si j'avais ouvert mes volets, j'aurais vu qu'il y avait un grand soleil et un grand ciel bleu, et je serais pas parti avec mon parapluie. Enfin bon, c'est comme ça. Mais ce qui me rassure, c'est que j'ai souvent entendu d'autres gens en parler, puis je me suis aperçu que j'étais pas le seul à m'être fait avoir. Donc voilà. Si je suis con, je suis pas le seul.
Ça c'est vrai. Que t'es con et que t'es pas le seul.
Bon, d'accord. Merci, David. Ça, c'est vrai. Merci ton verre. Ça... Voilà, bon. Donc, j'étais en train de dire que de tout temps, l'homme a voulu savoir le temps du lendemain, que c'était bien pratique. Que de tout temps, certains ont su prédire le temps du lendemain, que de tout temps, il y a des gens qui les ont crus, et de tout le temps, les gens qui ont cru ceux qui disaient le temps du lendemain ont été déçus. Non, mais ça vous intéresse
que non, mais vas-y.
Donc j'étais donc en train de dire que ceux qui écoutaient ceux qui disaient le temps qu'il allait faire le lendemain étaient déçus. Non, apparemment, il y a un problème technique.
Non, pas de problème technique. Vas-y.
Non, c'est rien. C'est ton verre qui s'inquiète de ma santé parce que je commence à avoir des petits tâches noires dans le cou. C'est juste mon casque qui se dégrade et qui tombe en miettes dans le cou.
D'accord,
ça y est, j'ai compris.
Il n'y a pas que la pluie qui tombe, il y a le casque de Flo aussi.
Ok.
Donc, tu peux reprendre, excuse-nous.
Voilà. Donc, j'étais donc en train de dire que, grosso modo, tout le monde était déçu par les prédictions des météorologues. Voilà.
Enfin, des fois, ils ont bon.
Des fois. Alors, ça va être un peu le débat de tout au long de ma chronique, c'est que finalement, des fois ils ont bon, des fois ils ont pas bon, des fois on sait pas s'ils ont bon, s'ils vont avoir raison ou pas, et qu'on aimerait bien être sûr de savoir s'ils vont avoir raison ou s'ils vont avoir tort. Et que, voilà. Enfin, bon, bref.
Et vice versa.
Voilà. Donc, je commence juste ma chronique en rappelant quand même que la météorologie, c'est une science qui n'est pas limitée à la prédiction du temps du lendemain. Elle vise aussi à déterminer notamment les raisons des phénomènes climatiques et qu'elle espère, à travers cette étude, déterminer, essayer de comprendre en tout cas les climats du passé et les climats à venir. Donc, moi je vais surtout parler de la météorologie telle que celle qui est la plus accessible pour tous, c'est-à-dire le temps du lendemain, et puis on s'orientera un petit peu vers la fin. Vers d'autres aspects de la météorologie, effectivement pas uniquement la prédiction météorologique. Alors d'abord, c'est intéressant de noter l'énorme variété de sources pour nous informer de la météorologie. On trouve des sources pour nous informer un petit peu partout, notamment à la télévision bien sûr, mais aussi à la radio, dans la presse, sur internet. C'est très facile de trouver des renseignements sur la météorologie. La plupart des quotidiens nationaux, la plupart des pages principales des grands portails internet ou des grandes sociétés sur internet proposent un service météo. Donc justement, je suis un petit peu allé relever tout ce qu'on pouvait voir à ce niveau-là. Notamment, j'ai été voir les prévisions pour dimanche prochain. Je me suis dit...
C'est-à-dire le...
Dimanche prochain, on sera le 13.
Le 13.
Voilà. Dimanche 13 juin 2004.
Donc pour ceux, l'émission sera pas encore en ligne. Donc c'était pour dimanche dernier en fait.
Voilà.
C'est pas facile, mais vous allez voir, on va y arriver.
Non, mais c'est cool parce que comme ça ils pourront voir tout de suite qui a dit juste, qui a dit faux, alors que nous là on est dans l'expectative. En fait c'est trop fort que l'émission soit projetée, enfin soit diffusée que dans 2 semaines.
Mais c'est joli, expectative.
Donc alors quel temps il fera dimanche ?
Alors, selon, j'ai été voir sur le site. Alors en fait, la plupart des sites internet, ils ont à peu près 2 ou 3 sources différentes. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils citent la même source, mais ils donnent pas les mêmes résultats. Alors, à mon avis, c'est que les sources font changer leurs résultats au fur et à mesure qu'on s'approche de la date, ça évolue très vite.
Mi-journée en demi-journée.
Exactement. Donc je pense que les services qui nous proposent ces informations-là, nous proposent au moment où eux, ils ont récolté l'information. Donc ça explique la différence. Mais tout de même.
Et il est à préciser qu'une bonne source, ça peut quand même faire un joli fleuve.
Enfin, certes. C'est joli. Bon. Alors donc, première source, j'étais voir sur le site de Free. Donc Free, le fournisseur d'accès à Internet, hein, bien connu. Donc ils nous prédisent pour dimanche quelques éclaircies avec une température entre 10 et 18 degrés.
Donc quelques éclaircies, ça veut dire qu'il va pas faire beau.
Ben c'est comme ça que moi je le comprends.
Parce qu'ils le disent pas, il va y avoir quelques éclaircies, genre vous avez de la chance, il va y avoir un peu de soleil.
Éclaircies,
c'est mitigé.
Température entre 10 et 18. Alors sur Yahoo, un peu plus optimiste, hein. Nuages épars, température entre 12 et 22 degrés. On monte en température et on monte aussi en soleil.
On dit
en
ensoleillement.
Yahoo, exactement. J'ai été voir sur le site du Monde. Alors eux, c'est carrément beau temps. Mais les températures, c'est comme Yahoo, entre 12 et 22 degrés. On était parti avec Free à 10 degrés, de 10 à 18. Là, on est de 12 à 22 ensoleillé. Enfin, beau temps. Sur Voilà, ciel couvert. Mais alors, la température, on monte encore de 2 degrés au maximal, puisqu'on passe de 12 à 24 degrés. Sur TF1, soleil, température entre 14 et 21 degrés. Donc, on est déjà monté de 10 à 14 sur les minimales et de 18 à 24 sur les maximales. Alors, sur M6, alors, la météo sur M6.fr, je précise bien pas la télévision, parce que moi, j'ai pas la télévision, mais sur Internet. Alors, M6.fr, messieurs, dames, peut vous donner les prévisions à 5 jours.
Ben, c'est Météo France. Hein.
Attention, par 5 jours, par arrondissement à Paris.
Ben là,
moi, je dis bravo.
Képi bas. Hein.
Képi bas. Mais alors, par contre, pour avoir cette information, c'est payant. Parce que sur M6.fr, vous pouvez avoir les prévisions à 5 jours par arrondissement à Paris. Mais par contre, il faut quand même payer 0,34€ la minute.
Oui, mais tu te rends pas compte, c'est pour savoir si tu vas cramer sur le parc de Butte-Chaumont ou sur le parc Montsouris, quoi.
Surtout dans 5 jours, hein, tu vois. Donc je vais payer 0,34€ pour avoir une information dont je ne douterai absolument pas de la valeur à 5 jours. Enfin bon, vous aurez quand même l'obligeance de me pardonner de ne pas avoir tenté l'aventure. J'en suis resté à cette page qui me proposait de payer le service, mais je ne l'ai pas acheté.
C'est pas très pro, hein.
Ah, oui, effectivement, mais n'insistez pas. Je culpabilise déjà suffisamment comme ça.
T'aurais fait une note de frais, on l'aurait encadré. Et...
Bon,
ça aurait été très joli.
Ah, c'est vrai que ça aurait eu aussi.
On l'aurait mis sur le site.
Donc, je n'ai pas poursuivi davantage mes investigations. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a un écart entre les minimales qui se balade entre 10 et 14 degrés et entre 18 et 24. Et au niveau de l'ensoleillement, on part de ciel couvert à beau temps. Donc, la différence est quand même significative. C'est quand même... donc, j'ai regardé ça hier soir, donc c'est pour dans 4 jours. C'est quand même assez important comme différence. Alors évidemment, il n'y en a pas un qui dit qu'il va faire moins 10 et qu'il va pleuvoir toute la journée. D'ailleurs, quand il fait moins 10, il ne pleut pas, vous allez me dire. Enfin, et puis, il y a un autre qui me dit qu'il va faire 40. Mais quand même, il y a quand même une grosse différence, moi, je trouve.
Bah oui. Surtout que normalement, il devrait avoir tous les mêmes sources.
Ben voilà, donc
Météo France.
Il y a Météo France et l'autre, j'ai complètement oublié le nom de l'autre source. Il y a deux sources qui sont citées.
Mais il y a très
le
longtemps.
Nom d'autres sources.
Evian et Vittel.
Non, mais sérieux, il y a très longtemps, quand j'étais petite et jeune et au lycée, on nous avait emmené visiter Toulouse et la station Météo France, et on nous avait expliqué qu'il y avait des gens, en fait, enfin, il y avait ceux qui payaient pour avoir les services Météo France et qui avaient donc des données qui étaient à peu près convenables, et quand on regardait la télé, c'était à peu près convenable. Et puis, il y avait ceux comme ça, les petits malins, genre Canal Plus, maintenant je sais pas s'ils le font encore, hein, ça c'était il y a un petit paquet d'années, qui essayaient de piquer l'information en route. Et alors, ben, une fois Canal Plus ils avaient la bonne information, une fois ils n'avaient pas la bonne, hop,
difficile, tu regardes la météo sur TF1 et un quart d'heure après tu donnes la météo sur Canal Plus.
Ben voilà, t'as les deux, puis tu choisis celle qui t'arrange.
Voilà,
de toute façon vous allez voir qu'il va pleuvoir dimanche. Ce qui m'arrangerait pas parce que justement je suis en bateau dimanche et moi j'ai pas envie qu'il pleuve. Enfin bon.
Bah tu t'en fous, t'es déjà. Ah, tu vas être sur l'eau, pas sous l'eau.
Voilà.
Sous l'eau.
Ah, sous l'eau.
Un humain. Mais
non, je suis pas sous l'eau.
Mais voilà, pas dimanche. Humain.
Donc en fait, bah, impossible de se fier aux prévisions météorologiques. Hein, et quand bien même on prendrait le contre-pied des prévisions, comme par hasard, ça s'arrangerait pour être juste.
Bah voilà, ouais.
Donc effectivement, on a un peu l'impression que les prévisions météorologiques sont juste à 50%. C'est-à-dire que le jour où vous allez les croire, bah, elles vont pas être bonnes, et le jour où vous allez pas les croire, elles vont être bonnes. Donc c'est un peu pile ou face.
Pourquoi tu tires pas justement la météo pile ou face? Tu prends une pièce, pile, je prends pas.
Mais pour les températures, il faut une pièce avec plein de facettes.
Ah ouais, mais non, bah pile, je prends un gros pull, pile, j'en prends pas. Là, en ce moment, c'est peut-être pas une bonne idée d'ailleurs de faire pile, je prends un gros pull, pile, j'en prends pas. Si, si.
Oui, mais entre le gros pull et sortir à poil,
il y a, bah en fait,
a
voilà,
toute une panoplie
évidemment, il
de,
faut...
de vêtements qui nous évidemment, amènera à un sujet prochain qui sera la mode.
Il faut nuancer, évidemment.
Et ouais, je pense que c'est un petit peu quand même comme le feu rouge, où on se souvient toujours du feu rouge qui fait chier et pas des 25 verres avant.
Oui. Oui, tout à fait, bien sûr.
Feu vert
de toute façon,
avant.
Dans ton cas, les 25 verres avant, tu t'en souviens jamais, hein, je veux pas dire. Mais...
Et puis après 25 verres, tous les feux sont verts. Aussi.
Les verres de rouge. Hein. Bon.
Mais ça, c'est quoi ces insinuations?
Moi, je sais pas, moi.
Quelles insinuations?
Est-ce que je bois du rouge actuellement?
Non.
Et bien bon. Voilà.
Tu bois du vert d'ailleurs.
Je bois du vert d'ailleurs.
Il faut quand même reconnaître que quand. L'écart de temps entre la prévision et puis le moment auquel elle s'applique diminue, les prévisions sont de meilleur en meilleur.
À Roland-Garros, ils sont hyper forts. Ils nous disent hop hop hop, attention, oui, faut arrêter de jouer, dans un quart d'heure, il pleut.
Mais voilà.
Et ben ils arrêtent de jouer et un quart d'heure après, ben il pleut.
Bah voilà, c'est un peu ce que là où je voulais en venir, effectivement.
Mais moi j'ai pas de météorologue qui vient me dire attention, hop hop hop, faut que tu rentres parce que dans un quart d'heure, il pleut. Moi j'ai pas ça quand je fais un barbecue chez moi. Bon, je fais pas de barbecue chez moi, mais je pourrais.
Bah, ça serait vachement bien dans ton petit salon là.
Bah ouais.
Ouais. Je sais pas si je viendrai.
Tu seras pas invité.
Ah ouf.
Donc effectivement, les prévisions pour la prochaine demi-heure ont le grand mérite d'être exactes.
Et alors?
Ah bah là j'ai pas regardé, mais bon. Je me garderai d'ailleurs d'en faire parce que les auditeurs seraient capables de croire. Enfin bon, bref, ça va être compliqué. Donc les celles pour la prochaine demi-heure sont justes. En revanche, au-delà de quelques jours, en général, elles s'avèrent très aléatoires.
C'est un peu chaotique.
Voilà, c'est un peu chaotique, comme l'illustre mon exemple de dimanche prochain. Donc avec la distance dans le temps, les écarts d'ailleurs de diagnostic se creusent de manière exponentielle. Donc la météo
exponentielle.
Ah oui, alors,
là aujourd'hui,
se creuse de plus en plus, s'écarte de plus en plus.
Enfin,
nous avons eu expectative et exponentielle aujourd'hui.
Bon.
Science et quoi que.
La météo au-delà d'une semaine est franchement hasardeuse, et à un mois, bah la météo à un mois, elle n'existe pas.
Bah
J'ai entendu cet après-midi sur France Inter, il y a
c'est
des
scientifiques des
nuances, qui ont fait des prévisions météorologiques pour dans 15 000 ans.
Voilà, mais c'est à grande échelle.
Mais
c'est-à-dire
quelle date?
Bah, ils n'ont pas précisé.
C'est-à-dire que.
Donc ça permet de savoir si dans 15 000 ans, il faut sortir avec un parapluie ou pas.
Mais voilà, c'est ça, c'est qu'en fait. Hein?
Donc ça permet de savoir si dans 15 000 ans il faut sortir avec un parapluie ou pas.
Bon,
il faut connaître la date.
Bah oui, mais
c'est pas suffisamment précis là.
Bah non, ils ont un petit peu merdé, je trouve. Aussi.
D'autant plus que je suis pas persuadé que dans 15 000 ans, les gens de dans 15 000 ans,
tu veux dire que nos
aillent éplucher les archives de l'époque pour voir quel temps il avait été prédit il y a 15 000 ans pour
ça
le.
Ça pourrait les faire marrer quand même.
Ah bah oui, on remarque, ça pourrait être très drôle, mais. Nous, ça va pas nous faire rire beaucoup. Hein. Enfin bon.
Bon, on verra.
Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc en fait, effectivement, la météo une demi-heure, elle est bonne pour la demi-heure qui suit. La météo un jour, elle peut donner une tendance générale pour dans un jour et ainsi de suite. C'est-à-dire que la météo pour plusieurs mois, elle va donner une tendance générale pour
mais
les mois à venir.
Eux, ils donnent des prévisions à 5 jours maintenant avec des taux de fiabilité. Je sais plus, ils notent ça de 1 à 5.
C'est pas mal. J'avais...
Ah oui, mais
ce
pas
qu'il y a, c'est que moi, j'ai regardé assez régulièrement le site de Météo France, là justement. Je l'ai regardé le matin quand j'arrivais au travail, en prenant mon café, Après, je passais la matinée à travailler, hein, normal, hein, je suis payé pour ça.
En prenant ton café.
Après, j'allais déjeuner tranquillement et tout, avec les collègues, on rigolait bien et tout, et je revenais, je re-regardais la météo.
T'as oublié, après
en manger, prenant mon prenais, café. Voilà. Ouais, mais je regardais la météo en même temps. C'est,
Oui, d'accord, en prenant ton café.
Et ce qu'ils annonçaient le matin et le 14h, ça avait déjà changé. Et certaines fois, ça changeait beaucoup. Notamment pour les prévisions, plus c'était éloigné dans le temps,
ben voilà,
plus le temps était mal prévu.
Oui, mais ça, c'est, ça, c'est le temps qui a fait que ça change.
Bah oui, c'est une question de temps, ça.
Non, de café.
C'est la, c'est la faute des papillons de l'autre côté aux antipodes. Et t'as vu, j'ai placé le mot antipode. Antipode.
La théorie du chaos. Bon. Donc là où j'en étais, c'était que quand même, il y a quand même eu énormément de progrès, parce que il y a quand même une époque où même la prévision à la demi-journée, on n'y croyait pas trop. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que dans l'ensemble, la prévision à un jour, elle est quand même correcte. Hein. Et pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, Numa, effectivement, il y a un peu la peur, enfin le problème du feu rouge, c'est-à-dire qu'on se souvient que de la mauvaise prévision et jamais des 10 bonnes prévisions. Enfin, on rééquilibre ça mal peut-être dans notre opinion.
Mais en général, on se souvient toujours quand ça merde.
Mais faut reconnaître, moi,
c'est un peu le contraire des voyants.
J'ai quand même l'impression que ça s'améliore, mais même encore aujourd'hui, sur un jour, les météorologues peuvent complètement se planter.
Ben, il picole pas mal aussi, je me suis laissé dire. Hein. Oui, presque autant qu'à la poste.
Mais votre temps est possible.
Non, mais je veux pas en dire autant pour la SNCF, hein. Il n'y a pas de souci. Bon.
on va tous les citer pendant qu'on y est. Hein, EDF,
non, et EDF, la Sécu. EDF. Oh là là.
Oh la Sécu.
Bon, et les météorologues.
On parle bien du trou de la Sécu. Hein. On parle bien du trou.
C'est Jean-François.
C'est Jean-François le trou de la Sécu.
Non, c'est Jacques Du. Non, je
Bon, un peu de sérieux.
Alors voilà. Oui, quand même. Donc maintenant, je vais changer un peu de. Je vais un peu arrêter de critiquer cette facette-là de la météorologie.
Critiquez-en une autre.
Voilà. Enfin, les prévisions. C'est que souvent, j'ai constaté que l'été, la météo des plages était souvent à l'avantage.
Des plages.
Des plages. Et j'ai rarement. Alors souvent, ils nous disent ouais, sur les plages, regardez comme il fait beau et tout ça. Mais jamais, ils insistent bien sur la pluie sur les plages. Ça. J'ai un peu quand même l'impression qu'il ne faut pas décourager les touristes.
C'est comme la neige à la montagne l'hiver.
Exactement, exactement ce que je voulais ajouter. C'était que la neige à la montagne, alors on nous parle de la neige, on nous parle du soleil, mais on ne nous parle jamais de la fonte des neiges. Hein. Ça, certainement pas.
Non, mais on nous parle des inondations. Qui peuvent être liées à la fonte des neiges.
Ouais, puis,
ou de violents orages.
Et puis de la station là pour les sports d'hiver qu'ils ont installée à 200 mètres d'altitude et puis il n'y a pas de neige. Surprenant.
C'est un peu haut aussi.
Bah ouais. Non, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont mis tellement de stations, on a de plus en plus bas, puis des fois, les plus basses, il n'y a pas de neige. Bah étonnant,
c'est...
non?
Bah oui. C'est un peu le problème du bon sens, encore une fois.
Un petit peu.
Un jour, on aura des stations à 500 mètres d'altitude, on s'étonnera qu'il n'y ait pas de neige.
Bah ouais.
Bon.
Des stations de ski sous-marine.
Ouais. Bon, bah alors là, juste, c'est dommage que Béa soit pas là ce soir, elle aurait pu me soutenir son petit coup de gueule que je vais pousser là.
Bah, elle avait la migraine.
Bon.
Je sais pas ce que
donc,
ça veut dire.
Donc, on lui souhaite un prompt rétablissement.
Prompt.
Voilà.
Un prompt rétablissement. Bon. Parce que justement, il y a eu quand même une légende comme quoi en Bretagne il pleut tout le temps. Ah bah si.
Non, c'est faux, des fois quand il pleut.
Alors
pas,
oui et non.
Il va pleuvoir.
Oui et non, parce qu'en fait, en Bretagne, il pleut pas tout le temps. La pluie, le beau temps, donc c'est pour ça que je passe sur la Bretagne où il pleut tout le temps. Bah oui, évidemment, il pleut régulièrement en Bretagne l'été. Ça, c'est un fait. Ça arrive, c'est comme ça. C'est la zone, enfin, c'est la Bretagne, c'est en plein. Non.
Mais tu sais, moi, la Bretagne,
en zone,
il y a la pluie, j'en ai rien à cirer.
Ouh!
Eh! Ce Numa, quand même.
Tu sors.
Oui, parce que les émissions de radio concurrentes, on n'est pas censé les citer ici d'abord.
C'est même pas fait exprès.
Bon.
Voilà, tu l'as tout paumé là.
Ouais, en plus, effectivement, il pleut régulièrement en Bretagne l'été, mais il pleut pas non plus forcément plus en Bretagne qu'ailleurs, parce que je suis sûr que les gens qui
non,
se plaignent.
Non, il pleut pas plus en Bretagne qu'en Normandie, par exemple.
Bah voilà.
Par exemple.
Et les gens qui se plaignent qu'il pleut en Bretagne l'été, ils savent même pas s'il pleut pas chez eux pendant ce temps-là, puisqu'ils sont en vacances en Bretagne.
Bah oui.
Et puis en plus c'est vrai, c'est-à-dire que quand il pleut en Bretagne, il pleut aussi ailleurs. Alors les gens qui sont habitués d'aller en vacances sur la Côte d'Azur ou sur les grandes plages du sud-ouest,
les gens qui sont en vacances, ils appellent chez eux. Vous avez jamais vu ça? Quelqu'un, il est en vacances avec quelqu'un et tout. Ouais. Et tu le vois en début d'après-midi. Oh, oui, j'ai téléphoné vrai, chez moi ce matin. Ouais. Oh là, il fait un sale temps à Paris. Oh là 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 là, on est bien ici.
Oh, bah ouais,
le seul truc, ils appellent pour savoir, en espérant qu'il fait un temps de merde là-bas.
Faut écouter les conversations. Ouais. Alors, quel temps il fait à Paris? Ouais, hein? Ah, qu'est-ce qu'il fait beau, hein?
Oh là là, qu'est-ce qu'il fait beau, hein?
Bah oui,
j'ai même rarement vu ça, hein.
Alors forcément, le mec en Bretagne, sur lequel, au moment où il appelle, parce qu'en Bretagne, ça arrive de façon intempestive, paf, il y a un petit coup de crash, hein, un tout petit truc de rien du tout. Quel temps il fait? Bah, il fait beau. Bah oui, forcément, là, ça la fout mal. Mais...
Non, c'est pas un tempestif, c'est un temps pluvieux.
Oh là 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 là, mais tu vas finir par me complètement me perdre dans ma chronique, c'est pas possible, Numa.
J'essaye.
j'ai bien entendu, mais tu n'y arriveras pas. Non. Donc, j'ai quand même regardé les statistiques, et en Bretagne, certes, il pleut un peu toute l'année. Donc, il pleut toute l'année, mais il y a quand même des endroits où il va pleuvoir autant en nombre de jours de précipitations. C'est-à-dire que si en Bretagne il pleut un peu toute l'année, c'est-à-dire 2 jours en juillet ou 3 jours ou 4 jours en juillet et puis un peu comme ça toute l'année, le reste de l'année il pleut pas beaucoup par rapport à ailleurs. C'est-à-dire que le nombre de jours de précipitation en Bretagne, il vaut complètement celui de la moyenne nationale. C'est-à-dire que
les Bretons ils sont un peu comme les Corses, ils se précipitent pas beaucoup.
Voilà.
Par contre, il pleut plus en Bretagne qu'en Corse.
Ah ben, en Corse précisément, je sais pas, mais c'est même pas
mais
sûr.
Quand
parce
que... En Corse, quand il pleut, parce que... il pleut, alors qu'en Bretagne, quand il pleut.
Exactement, en termes de.
C'est pas pareil, quoi.
En termes de mais quantité c'est de précipitation, c'est-à-dire, parce que ça se mesure en nombre de liquide, en millimètres cubes.
En millimètres.
Voilà, en millimètres par centimètre carré.
En millimètres,
quoi.
Bah, on dit en millimètres.
Voilà, bon, bref, un millimètre de ces précipitations, et ben en fait, en Bretagne, il pleut assez peu.
C'est-à-dire, ce qui tombe en Bretagne en un an, c'est ce qui tombe en Corse en 2 jours.
Voilà, exactement. Donc, voilà. Après comme, tout, comme il ne pleut pas fait. Plus en Bretagne qu'ailleurs.
C'est comme les maisons. Le nombre de maisons qui tombent en Corse en un an, c'est ce qui tombe en Bretagne en 100 ans.
Non,
mais on les aide aussi.
Ouais, non, mais non, en Irak, ça tombe bien aussi.
Ah oui, oui. Non.
Alors, pour continuer sur le sujet en changeant à nouveau de facette, alors là, je ne vais plus critiquer les météorologistes. Mais par contre, je vais parler du réchauffement de la planète. Alors ça, c'est la météo à venir. On nous prédit pour tout, enfin tous les scientifiques prédisent un futur réchauffement de la planète. Déjà, on s'en rend
compte.
Majorité. On a dépassé même les prémices, puisque apparemment, actuellement, on est en phase de réchauffement. Actuellement, là, il y a une loi qui passe en ce moment. Je ne sais plus si c'est à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Enfin, qui est en projet, hein, donc qui est dans une commission, qui vise à obliger les industries françaises à baisser de tant de pourcentage, c'est entre 1 et 2% de leur.
C'est à la suite des accords de Kyoto, ça.
Voilà, c'est la suite des accords de Kyoto. Donc il y a cette loi. Alors, 1 à 2%, je suis pas persuadé. De toute façon, c'est forcément positif dans le sens où ça.
Non, c'est une baisse, donc c'est négatif.
C'est positif pour la planète, monsieur.
Ah d'accord. Non, j'y étais plus.
Voilà, donc ça va dans un sens qui est bon, mais je suis pas persuadé que ce soit vraiment suffisant. Et en fait, quand on voit
quand on voit ce qu'on voit,
et qu'on entend ce qu'on entend, bon, on est bien content de penser ce qu'on pense.
Voilà. En fait, ça a très peu d'impact. Il y a énormément d'alertes qui sont données sur le réchauffement de la planète, mais finalement, tout le monde s'en fout.
Qui a été donné, c'est le dernier film, voilà,
le jour d'après.
Le jour d'après, ouais, le truc comme ça, c'est une tentative, c'est un peu exagéré, histoire d'effrayer les gens.
Ouais, mais pour les Américains, faut
exagérer. Il faut y aller fort un peu.
Oui, mais nous ne sommes pas les Américains.
Ouais, et je salue nos auditeurs américains.
Et finalement, tu parlais de la conférence de Kyoto, justement, les Américains n'y ont pas participé, je crois.
Si, ils ont participé, ils
n'ont pas signé le protocole qui a été signé notamment par la France.
Bah non, parce que tu te rends pas compte, après les industries vont
voilà,
plus faire d'argent et tout.
Faire
on sera tous morts,
sorte...
enfin, plus d'argent non plus.
Voilà. Et c'est vrai que finalement, tout le monde s'en fout, personne ne fait gaffe.
Il y a Nicolas Hulot qui s'en fout pas.
Ouais, Nicolas Hulot, il fait plein de trucs.
Parce que individuellement, on a beau faire un petit effort de temps en temps, globalement, on fait pas tous les efforts nécessaires, c'est clair.
Mais il y a des pubs qui passent à la radio justement pour faire des économies d'énergie, donc économie d'énergie, moins polluer, préserver nos ressources, qui passait à la radio où justement il y a des gens parlent. Bah, quand on ouvre les fenêtres, il faut pas laisser les radiateurs ouverts, des tas de choses que tout le monde dit. Faut pas laisser le robinet ouvert quand on, des tas de trucs
c'est
comme
exactement...
ça. Et, voilà. Et puis en même temps, il y a une superbe chanson qui passe derrière de Dalida et d'Alain Delon. Parole, parole, parole. que vous connaissez.
Ce qui veut dire
tous.
Exactement ce que ça veut dire. Ouais.
Donc voilà, les gens, voilà, on sait tous à peu près ce qu'il faut faire, au moins pour faire quelques bricoles, mais on
n'est
pas
grand chose à le faire. Voilà, exactement.
Mais des fois, je le fais.
C'est exactement ce que je voulais dire. Et puis bon, bah d'ailleurs, j'ai pas critiqué qui que ce soit parce que finalement, je me rends compte que moi-même, c'est la même chose.
Ah non, il faut se regarder le nombril. Hein, parce que
mais
moi, je dis bien, des fois, j'y pense et puis je fais.
Oui, bah c'est la paille, la poutre.
C'est ça, ouais.
Voilà. Donc,
j'en parlais encore tout à l'heure parce qu'on a un nouvel écran d'ordinateur
et ben voilà,
on oublie de l'éteindre.
C'est exactement ce que sur cette facette-là, c'est comme ça que je voulais
conclure.
Mais des
fois, j'y pense.
Laisse-le conclure alors.
Non, sur cette facette-là, je vais conclure. C'est que au boulot, ils nous ont passé récemment. J'aimerais bien que toutes les entreprises fassent quelque chose comme ça. Ils nous ont passé ils nous ont envoyé à chacun un mail pour nous signifier qu'il fallait éteindre au moins l'écran parce que l'écran dégage vachement de chaleur, effectivement.
Éteindre.
J'ai dit quoi ?
Étreindre.
Bah autant pour moi.
C'est affectif.
Bah oui, voilà, c'est affectif.
C'est
bah oui, voilà, j'aime bien mon
écran. Sexuel,
enfin bon,
sentimental, pardon.
Il faut couper l'alimentation de son écran en appuyant sur le bouton le soir avant de partir de son bureau.
Mais c'est
effectivement, si vous touchez le haut de votre écran, vous allez vous rendre compte, pas les écrans pleins. Hein. Les écrans à tube cathodique, ils sont très très chauds et c'est vrai que d'éteindre son écran, ça permet.
Ça limite le réchauffement de la planète.
Ça limite à son échelle le réchauffement de la planète. Si vous pouvez faire aussi attention chez vous.
Pendant ce temps-là, tu consommes pas d'électricité.
Bah voilà, c'est
le dégagement. Tous les
dégagements
qu'on a avec les produits en veille, tout ça tourne tout le temps.
Voilà. Et en fait,
chez toi pendant 15 jours, tu reviens, t'as une note d'électricité, de folie parce que t'avais laissé tes appareils en veille.
Bah oui. Bah donc si vous pouvez commencer au boulot, continuer chez vous, couper tout ça, ce serait pas mal. Donc j'arrive à la fin de ma chronique. J'avais juste envie de dire que il y a plein de gens qui ont chez eux une petite station météo. Ça se fait de plus en plus. Donc il y a mon père qui s'est offert ça pour son anniversaire.
Une grenouille dans un bocal avec son échelle, tous.
Non, il y a quelques personnes qui s'achètent ça se vend. Hein. On peut s'acheter une petite station météo qu'on installe soi-même. Alors moi je le ferai pas. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours essayer. Moi mon père il a ça. Je vais quand même regarder ça d'un peu plus près. J'avais juste marqué ça. Je sais pas trop exactement ce que je voulais en dire de plus là-dessus. Enfin,
moi sûrement pas grand chose.
Je vais conclure donc. Pour ce qui est de la météo d'hier, donc quand on fait des prévisions sur la météo d'hier, forcément elles sont justes et donc tout le monde s'en fout. Que la météo de demain, on aimerait bien la savoir, que personne s'en fout, que tout le monde veut la savoir, mais malheureusement celle-là elle est fausse.
Mais il y en a qui s'intéressent.
Que celle pour les années dans très loin à venir, elle est alarmante, ça va être terrible et tout et tout et tout, mais que tout le monde s'en fout encore une fois. C'est dommage, il serait quand même peut-être temps de s'en occuper. Parce que on sait jamais avec tous ces raz de marée qu'on nous prédit l'apocalypse et tout enfin bon bref avec notre chance habituelle on sera sans doute crevé avant que ça arrive enfin bon si on pouvait s'en occuper pourquoi pas voilà et puis vive la Bretagne.
Merci et bravo
à tous les Bretons.
Et bien maintenant, nous allons passer à Flo. Quand on aura fini de boire son vin.
Je sais pas, Cré avait l'air de vouloir ajouter un truc dans le micro, alors je vais être sympa, je vais lui prêter un peu. Tu voulais dire un truc ?
Ouais, non, mais je voulais juste parler des présentateurs météo, mais maintenant c'est fini.
Bon,
ma chronique est passée, j'ai sauté.
On en parlera à la fin.
J'avais une ou deux anecdotes à resituer, mais ce sera à la fin.
Oui,
si
à la
si
fin,
si
surtout que tu as largement explosé ton temps.
Bon, d'accord, voilà. Donc non, c'est gentil, mais je te laisse le micro.
Ils sont très bien, les présentateurs météo.
présentatrice.
Donc Flo, tu vas nous parler donc de la pluie et du Bhoutan.
Voilà,
alors le Bhoutan qui se trouve.
Alors attendez, Numa, t'as pas le droit de répondre. David, t'as regardé où c'était le Bhoutan?
Bah, je te pose la question. Voilà. C'est moi qui t'ai posé la question en premier.
Est-ce que tu sais où est le Bhoutan?
Dans mon caleçon.
Est-ce que tu sais où se trouve le Bhoutan?
Non, mais je sais où le bout se tend.
Bon, d'accord. Est-ce que quelqu'un peut situer le Bhoutan ou pas?
Bah, je sais pas. Nous attendons vos appels.
Donnez-moi un continent.
C'est en Asie.
Ouais, bon, déjà c'est pas mal parce que dans le film à un moment on a eu un peu les boules parce que là il y a un jeune homme qui part sur un périple, je vais vous expliquer un peu, et à un moment une jeune fille qui lui dit mais en parlant des Américains, mais t'es con, pourquoi tu veux aller dans ce pays là, ces gens là savent même pas où c'est, ou ne savent même pas où est le Bhoutan. Et là on a senti, même si c'était une salle de cinéma et personne parlait, on a quand même senti un grand blanc et on a senti que tout le monde se disait mais merde, en fait exactement c'est où le Bhoutan.
Et puis un grand blanc dans une salle obscure, c'est tout rigolo.
C'est un flash.
Du côté de l'Inde ou du côté de la Chine, ça, non?
Ouais, c'est ça, c'est entre les deux en fait. C'est collé entre l'Inde et la Chine, c'est sur l'Himalaya.
Le Bhoutan entre les deux, d'accord.
Ouais. Voilà, et alors j'ai eu surtout une grosse trouille, parce que je vous ai dit, c'est Numa qui m'a soufflé le thème de la chronique, et comme le film commençait à vraiment me plaire, je me suis dit, mon Dieu, mais oui, c'est vrai, ce serait pas mal de faire une chronique sur la pluie et le Bhoutan, mais pour faire une chronique comme ça, il faudrait au moins qu'il pleuve dans le film. Et bien, j'ai été sauvé, il y a une scène de pluie.
Mais c'est la pluie et
sauvé
le Bhoutan, s'il fait beau temps, ça colle dans le thème aussi, de toute façon, il y a forcément un temps.
Oui, mais s'il n'avait pas plu, j'étais dans le caca.
Si t'avais pas plu le film,
non,
il t'a plu.
Si il n'avait pas plu. Ah mais non, moi il m'a énormément plu. Ah, moi je suis très fort
donc
enthousiasmé.
Voilà, il a plu.
Et il a plu.
C'est justement parce que je suis extrêmement enthousiemé que je vais vous parler de ce film et essayer de vous transmettre
mon enthousiasme. Enfin, pas trop quand même. Hein.
Si. En plus, vous allez voir, c'est vachement drôle comme chronique parce que c'est plein de noms que j'arrive pas à prononcer. C'est un film de Kiense Norbu.
Ouais, et en plus, essaye de pas faire.
Je recommence en mettant la feuille devant moi. La personne en question s'appelle Kiense Norbu. Kiense, plus loin Norbu, Norbu.
Tu l'as très bien prononcé, sûrement.
Ouais, oui.
On demandera au Boukistan cette année.
Norbu.
Nos éditeurs. Boutanqué.
Ouais.
Enfin voilà, vas-y, continue là.
Alors donc,
on coule.
On rame. Ça prend l'eau.
Je boue.
Bravo. Donc oui, c'est l'histoire d'un jeune homme fonctionnaire au Bhoutan qui mène sa petite vie pépère. Et alors,
c'est quand même organisé donc là-bas.
Oui, il y a des fonctionnaires et tout. Et donc en fait, son grand rêve, c'est de rejoindre l'Amérique. Et alors pour ça, il a obtenu d'un pote, on ne sait pas trop qui habite en Amérique, une espèce de visa de passeur machin. Alors bon, on vous dit Bhoutan, c'est près de la Chine, on imagine que c'est près de la Chine. De toute façon, quand on le voit, ils ont des airs d'assez proche de la Chine, donc on imagine des trucs pas possibles pour s'échapper de là-bas, qu'il lui faut un passeur machin. Non, en fait il s'agit juste de rejoindre un village, et le seul problème c'est que pour y arriver en bus il faut déjà 2 jours et demi, donc le temps lui est compté, et c'est maintenant ou jamais pour y arriver. Et évidemment, il arrive, les lenteurs administratives bhoutanaises lui font rater le bus, et donc il est obligé d'y aller à pied. Et alors là, sur la route, à pied, c'est l'horreur, parce que déjà, il fait du stop. Alors on sent déjà que vu la route, la fréquentation de la route, c'est pas gagné.
Il n'y a pas de voiture, il n'y a que le bus.
Il y en a, mais pas beaucoup.
Il n'y en a pas des masses.
Et puis il y en a, ben, ça n'arrête pas.
Voilà.
Et c'est pas gentil.
Non, c'est pas cool. Et alors on sent vraiment que c'est pas gagné, parce que arrive un mec, un petit vieux avec son énorme hotte de pomme dans le dos, et qui s'y fait, il se met à côté de lui nécessairement, quoi. Donc ça fait deux pour sur la même voiture pour le stop. Déjà ça paraît grillé. Et puis après il y a un moine qui arrive, hein, ça trois sur le. Puis après il y a un grand-père et sa fille, hein, c'est l'horreur. Et enfin bon, du coup on suit
ils font tous du stop.
Ils font tous du stop pour rejoindre le même endroit.
Il n'y a pas de bagnole, et en plus dans le pays ils font tous du stop au même endroit.
Ouais, ou enfin quand ils font pas du stop, ils y vont en marchant. Enfin ils marchent, mais bon déjà c'est 2 jours et demi en bus.
Mais en fait ils attendent soit le bus, soit un gros camion.
Voilà,
ou
quelque chose, un n'importe quoi en fait. Ils se feront ramasser par un camion qu'ils emmènent un petit
une
peu
charrette.
Et puis voilà, enfin bref. C'est
un vélo.
Ils attendent un truc.
Ouais, ils attendent un truc.
Pour aller quelque part.
Au même endroit.
Au même endroit, ils vont tous en même
c'est quelque part quand même.
Oui, mais au même endroit.
D'accord.
Voilà. Mais non, c'est assez surprenant.
Les contredit pas.
Ouais, je crois que tu as raison, ce sont des gens dangereux en face. Et donc, ce voyage permet de vous présenter, en fait, à travers ce film-là, il en profite pour présenter le Bhoutan qui n'est pas très connu. Alors, ce n'est pas son premier film, hein, c'est le deuxième quand même, je tiens à préciser.
Donc, rappelle-nous son nom là.
De Khyentse Norbu.
Voilà.
Alors, c'est son deuxième film, mais ce qui est très important, que je ne vous ai pas dit, c'est le premier film réalisé par le Bhoutan.
C'est produire. Non, c'est le premier réalisateur.
C'est, le premier, c'est la première fois que le Bhoutan fait un film.
Mais c'est au niveau réalisation, c'est une coproduction.
C'est une coproduction bhoutanaise australienne. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite.
Il n'y a pas eu d'autres réalisateurs du Bhoutan.
C'est le premier
long métrage. C'est le premier long métrage bhoutanais. Il y a eu quelques courts métrages, mais jamais de long métrage bhoutanais.
Voilà, c'est le premier long métrage bhoutanais. Mais je vais vous expliquer après, vous allez comprendre quand même.
Ça alors.
Ah ouais, impressionnant. Hein. Bon alors je vous explique grosso en fait ce qui se passe dans l'histoire. Donc ils se retrouvent donc ces cinq personnages. Qu'on imagine assez mal se mélanger, enfin bon, surtout quand on voit le jeune, parce que le jeune, ce qui est impressionnant, c'est qu'il est quand même habillé en tenue traditionnelle et il est quand même très occidental.
Mais en tenue traditionnelle avec des baskets.
Avec des baskets, ouais.
Bon, on voit ça assez régulièrement en France aussi.
Hein. Ouais, c'est ça. Tu as déjà vu les bigoudens avec des baskets ? C'est pas tous les jours quand même. Hein. Enfin bon, là c'est.
J'ai pas en Bretagne, il pleut.
Donc ce jeune essaie de rejoindre son village et est rejoint par le moine et tout. Et alors le moine du coup se moque de lui énormément et présente, enfin lui essaie de lui faire comprendre en fait ce qu'il va perdre en quittant le Bhoutan pour aller aux États-Unis. Et il lui raconte ça à travers un conte et à travers en fait tout le film. Ça permet au réalisateur de nous présenter le Bhoutan et qui est vraiment un pays surprenant. Au début du film, moi j'ai halluciné. Non, on peut pas dire ça comme ça. J'ai vraiment été impressionné par ce film. S'il est d'une modernité dans les techniques, dans la manière dont il a été filmé, je sais pas, Numa, tu peux essayer de dire quelque chose au lieu de voir deux.
Mais ils font pas de film et ils en regardent peut-être.
Mais écoute, je peux pas te dire. Je suppose que oui. Je suppose que maintenant ils regardent des films. Je ne sais pas combien il y a de cinéma au Bhoutan. J'aurais dû regarder d'ailleurs. Ça aurait été intéressant.
On n'en parle pas dans le film.
Non, on n'en parle pas dans le film. Dans le film, en fait, il y a aucune trace. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est un film avec une manière de filmer qui est extrêmement moderne. Parce qu'on apprend, on a emmené un ami qu'on a pris comme victime pour faire un test.
Patrick.
Ouais.
Ouais.
Il a eu très très peur et en fait il a adoré le film. Et c'est vrai que nous aussi quelque part on a pas osé lui dire, on avait un peu les chouettes.
On rigole là parce que il y a Craig qui est en train de démonter le bar pour prendre une bouteille de vin. Et c'est assez impressionnant. Enfin vas-y, continue comme si de rien n'était.
Comme si de rien n'était.
Donc on est allé voir un premier film d'un pays qui donc n'avait jamais fait de film, etc. Donc on pouvait s'attendre vraiment à tout, sauf à un film aussi moderne dans sa facture et avec des gens tout en costume traditionnel. C'est un truc complètement. Enfin c'est un peu comme si on faisait un film sur la France du Moyen-Âge. Mais en étant nous-mêmes au Moyen-Âge avec les outils de maintenance. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'espèce de paradoxe que ça représente.
T'es un peu genre 2 heures moins un quart avant Jésus-Christ chez les Romains.
Ouais, voilà, mais comme si les Romains avaient pu le filmer, quoi. C'est ce qui paraît. C'est complètement fou. Et c'est génial. Il y a un rythme impressionnant.
Et beaucoup d'humour.
Il y a énormément d'humour.
C'est pas chiant.
C'est pas chiant. Il y a de l'humour, etc.
C'est réputé l'humour.
Oui, on parle des bouts en train.
Voilà, ça vient de là.
Oui.
Ne rigolez pas bêtement derrière votre chaîne.
Donc, je vous dis, oui, il y a.
Ou votre peuplier.
Il y a énormément. Là, Numa, c'est.
Là, désolé.
On va faire ouh.
Donc ouais, je vous dis, donc il y a énormément d'humour, mais il y a aussi énormément de sensualité. Il y a une scène d'une sensualité. Pareil, on est tous habitués à voir des films des films qui ne soient pas français. Je parle pas des films hollywoodiens parce que bon, c'est complètement
marqué.
Ouais,
en
parlant de films.
C'est des films d'amour.
Oui. De Marc Dorcel.
Le dimanche soir sur M6, il y a des films d'amitié. Et le samedi soir sur Canal+, il y a des films d'amour.
Non, je ne parle pas de ce type de film. Je parle de films qui ne seraient pas des films français, des films étrangers. Bon, je parle pas des films européens parce que même s'ils ont une petite facture européenne, enfin, d'un pays différent, on sent un fait un film européen, les films américains, ils sont tous de toute façon écrits de la même manière, enfin pas vraiment, mais bon.
Et c'est vrai que dans ce type de film, ils ont des gros geeks. Hein. Le type du film.
Ah bon. Au bouton, ouais. Ils ont des gros kikis.
T'as fini de parler des films débiles. Non, c'est vrai que dans le film, il y a un gros kiki en bois.
Oui, 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 c'est une scène très. Visiblement, ils dépucellent une maison, c'est assez rigolo, avec une grosse bite en bois.
C'est une tradition de.
C'est
de
une tradition.
Oui, oui, c'est-à-dire que visiblement, c'est lorsqu'on emménage dans une maison, il faut la dépuceler avec une grosse bite
c'est
en bois.
C'est la maison d'une femme.
Au lieu de prendre la crème ailleurs, on dépucelle la maison avec une bite en bois.
C'est la maison d'une femme.
Et c'est assez rigolo.
Bah
parce qu'on n'est pas habitué en fait.
Oui, j'imagine. Il faudra essayer.
Et donc il y a tout le jeu, t'as tous les amis qui viennent et qui et donc avec tout un système de câbles qui tire la grosse bite pour la faire rentrer par la fenêtre de l'étage.
Mais c'est une très très grosse bite en fait, c'est pas une grosse bite.
C'est
qu'on peut pas une seule personne peut
c'est
pas la porter.
C'est une grosse bite genre d'un mètre. C'est un mètre.
Ah, c'est énorme.
Genre le truc pour défoncer une porte ou.
Genre
un bélier quoi.
Ouais, un boutoir, un machin, un truc gigantesque.
Arranger du dul au placard.
Ouais, à peu près, ouais.
Ah, ouais, du dul,
voilà,
il a
si
l'air
tu veux, nous, là où on a l'air vraiment ridicule, c'est que nous, ça nous fait rire. Pour eux, c'est la chose la plus naturelle du monde.
Ça les amuse peut-être un petit peu quand même.
Oui, enfin bon.
Oh, oui, quand même un peu. Hein. Moi, enfin, il m'a semblé.
Et donc, en fait, pour en revenir aux autres films, donc, je sais pas, on pourrait dire par exemple des films africains ou asiatiques ou autres. On n'est pas habitué à voir des films, des scènes de sensualité comme celles qu'on a vues. Il n'y a pas de scène de sexe au sens propre du terme ou autre. Tout est en suggéré et sur des images comme ça, des petits bouts de peau, des machins. C'était
mais ça c'est dû au réalisateur.
Oui, mais même.
C'était vraiment très très beau, très.
Pour un premier film, pour un pays qui est coincé comme ça là dans l'Himalaya, on s'attendait pas à quelque chose d'aussi puissant.
Ils sont très sensuels.
Et j'ai failli avoir une érection.
Ça laisse comme un blanc.
Personne n'y croit.
Bah non, une érection de niveau, non, personne n'y croit.
Ouais, ça ferait une belle statue quand même.
Ah oui. Enfin bon.
La tour de Pise.
Donc tout ça pour en fait à travers donc tout ce film il nous présente la beauté du Bhoutan etc et en fait en nous faisant réaliser en même temps que le héros ce que lui perdrait s'il quittait le Bhoutan.
Et donc il part pas.
Bah on sait pas.
Ah là,
à la fin du film, on ne sait pas, parce que tout se passe sur la route. En fait, le village, il l'a même pas atteint. La fin du film,
t'as raconté que le moine y raconte une histoire.
Oui, j'ai essayé de raconter que le moine racontait une histoire, en fait. Et en fait, il y a deux histoires en parallèle.
Non, je suis pas. Il y a deux histoires en une, en fait.
Voilà, leur histoire sur la route et une histoire que le moine raconte. Mais bon, après, on va
Et d'ailleurs, le moine est un peu chiant.
Ah, le moine, il est terrible. On aurait envie de lui coller des baffes. Déjà,
c'est
un moine bouddhiste.
Un moine bouddhiste, comme on en voit dans ces pays-là, on n'en voit pas beaucoup chez nous. Donc, là, qui se promène au bord des routes.
Avec une immense casquette jaune.
Orange,
ouais, jaune, orangé, qu'on pourrait penser que c'est une blague. Non, c'est absolument. Il a un humour féroce et dévastateur.
Mais en fin de compte, quand on dit qu'il est emmerdant, c'est parce que, en fin de compte, il peut pas s'empêcher quasiment de dire la vérité. Il dit la vérité aux gens. Donc évidemment, la vérité, des fois, c'est
toujours bon à dire.
Dans ce cas-là, il fait du bien.
Mais
c'est dérangeant. Un peu, ça chatouille. Et puis en plus, il a une manière de le dire. Si tu veux, il t'annonce la vérité.
Avec un petit sourire goguenard.
Il se moque de toi en te disant et nécessairement
ils vont prendre une.
Mais non,
et il s'en prend pas.
On ne frappe pas un moine.
Ben non, c'est mal poli.
Enfin, moine bouddhiste, moi je m'en fous personnellement. Avoir des problèmes là. Je m'excuse auprès de tous nos auditeurs bouddhistes. C'était une mauvaise blague, j'en conviens. Je m'excuse platement.
Moi j'aime beaucoup les bouddhistes.
Donc maintenant que je vous ai parlé un peu du film, je vais vous parler un peu du Bhoutan quand même pour vous faire comprendre un peu ce qui s'y passe et tout. En fait, donc je vous ai dit, le Bhoutan c'est une espèce de truc qui est enclavé, là, perdu dans l'Himalaya, la tout petite. Numa, arrête de lécher ton micro.
Jalouse.
Et donc le désir en fait du réalisateur pour ce premier film, c'était de mélanger en fait d'amener des professionnels d'un peu partout d'Hollywood, donc de Bollywood, la production cinématographique préférée
de Bollywood.
Bollywood, ouais. De Bollywood et de Bollywood.
Les deux.
du Canada et d'Australie.
Oh là 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 là.
Tout ça. Donc il les a tous ramenés. Pour essayer, bah, de toute façon, pour faire le film, mais bon, vous allez comprendre un peu aussi, ceci, quelque part, c'est un peu une nécessité, puisque donc le Bhoutan, je vous ai dit, est isolé, complètement isolé. La Mongolie, ça a été un peu emmerdé par la Chine, mais le Bhoutan, ça n'a pas été emmerdé, parce que de toute façon, c'est tout petit. C'est planté au milieu de l'Himalaya.
Ils sont passés à côté sans le voir.
Mais non, c'est très haut.
Non, mais en fait, tout le monde s'en fout.
C'est super inaccessible. Il n'y a aucune richesse, pas de minerais, pas de machin, etc. Donc en fait, personne n'en a rien à secouer. Personne n'en a rien à secouer, ça n'a pas été colonisé.
Ça va être plein de guerriers et tout, là, en général, dans les trucs inaccessibles, il y a les mecs qui se foutent sur la gueule, qui vont se planquer dans ces endroits-là.
Non, visiblement,
c'est incroyable.
Très agricole, en fait.
Alors,
hein.
le film, ouais, en fait, le film, c'est vraiment présenté hein, comme une fenêtre sur le royaume du Bhoutan. Alors, le roi, c'est un royaume, hein, d'ailleurs. Le roi, c'est le chef d'État, c'est l'homme à la tête de l'État. Alors, par décret royal, il faut savoir que ce que je traduirais, parce que j'ai lu ça en anglais, donc ce que je traduirais par le GIB ou le FIB, à comprendre par Félicité Internationale Brute ou Joie Internationale Brute, doit primer sur le PIB.
Le produit international brut.
Voilà, c'est le décret royal.
Intérieur, oui.
Intérieur brut. C'est le...
Espèce de brut.
C'est le décret royal. C'est pas mal, quand même.
Bah,
hein.
C'est bien, oui.
C'est bien, hein.
Mais quand le Bhoutan, on sait très bien quel est le produit intérieur brut. Hein.
Ne rigole pas,
c'est pas mademoiselle.
C'est un pays matriarcal. Et ça, c'est ma mère qui me l'a dit. Là. J'ai deux sites pour aller.
T'as une assistante qui prépare tes chroniques.
Ouais, faut pas l'écouter parce que ça dure 2 heures au téléphone avec ta mère.
Donc j'ai deux sites à vous citer après.
Voir plus.
Mais à première vue, dans cette société matriarcale, les femmes ne sont pas. Enfin, on
se
marie.
Qui fait la note,
mais, hein. Mais les femmes sont libres. Les femmes ont 1 milliard de maris.
Un peu moins quand même.
Enfin, ouais, enfin bref, c'est ouais, l'inverse des RM, quoi. Mais les femmes peuvent avoir plusieurs maris, des enfants de N pairs, c'est pas gênant, c'est normal.
Bah oui.
Voilà. Alors, la loi impose aussi le costume traditionnel, le port du costume traditionnel.
Ah, ça, c'est moins drôle.
Non, mais c'est. Non, justement, quand on voit le film, ils ont pas le.
À regarder, c'est rigolo. Hein.
Des lois qui imposent ce genre de choses, c'est quand même moins drôle.
Ouais, mais non, ils ont c'est pas l'air d'en souffrir tant que ça, parce que je dis, il se balade avec ses baskets et puis il vit avec son costume traditionnel. J'ai regardé quelques photos d'ailleurs sur un site et ils sont là en costume traditionnel derrière les caméras, ça fait drôle, mais bon, c'est pas choquant.
Oui, est un autre sujet qui
par contre quand le personnage se promène en jean, t-shirt, basket dans sa chambre
il est tout quand seul, il est chez lui tout seul dans sa chambre, quand il s'imagine futur citoyen américain, il est en t-shirt, jean, basket,
bah
avec des posters partout, comme
ça
une
rappelle
chambre
beaucoup de choses quand même.
Et en train de faire des pompes.
En train de faire des pompes, oui. En train de se muscler et tout. Mais quand il va voir
d'écouter de la musique John dans sa chambre.
Mais quand il va voir son supérieur hiérarchique, là, il remet sa tenue, etc. Il est très cérémonieux, etc. Mais tout en restant poli, avec un peu l'impatience de la jeunesse. Enfin, c'est assez impressionnant. Alors, quant au casting, alors c'est qu'un casting non professionnel. Alors, il faut savoir quand même dans le casting.
Forcément, s'ils font pas de film.
Non, mais il pourrait y avoir des acteurs, je sais pas. Hein, j'ai pas cherché beaucoup. Hein, mais c'est vrai, Numa parle du théâtre, j'ai pas cherché. Mais il faut noter que dans le casting, il y a quelqu'un qui est le Chief Regulator of Countries Banking and Financial Institution. Un truc à peu près comme le ministre des Finances, qui joue dans le film. Hein, donc, vous imaginez un peu.
Sarkozy.
Ouais, voilà, Sarko
dans le film.
Voilà. Il y a
J'en veux plus.
La tour Montparnasse en infernale avec Sarkozy.
Il y a aussi un colonel des gardes du roi. Un moine entraîné à la mathématique pure.
Ah, ça c'est bien.
Un moine bouddhiste, hein, entraîné à la mathématique pure.
Alors, ça, moi j'y connais rien en arts martiaux.
Un maître de recherche, alors d'après ce que j'ai lu, un truc qui serait le cérébral, un maître de recherche dans l'activité cérébrale au Bhoutan, un principal d'école, enfin le principal d'une école, ça vous paraît anodin, mais là dans 2 secondes ça va vous paraître beaucoup plus important d'avoir le principal d'une école, et les membres de la télé locale, parce que c'est pareil, ça vous paraît anodin, mais là dans approximativement 2 secondes, le temps que je vous lise la suite, vous allez comprendre.
Bah Lila, au lieu de nous expliquer ce que tu vas faire après.
Alors il faut. Donc voilà, tout ça pour vous dire que dans les années 60, ce film représente énormément, parce que dans les années 60, au Bhoutan, il n'y avait pas de monnaie, il n'y avait pas de route, Il n'y avait pas d'électricité. Je parle de 1960. Hein. Il n'y avait pas de route.
Dernier,
voilà, pas d'électricité, pas de téléphone, pas d'école, pas d'hôpitaux, pas de services postaux et encore moins de visiteurs étrangers.
Ouais, ça n'a pas l'air si rigolo que ça quand même comme pays.
Non, parce que les gens en fait vivaient heureux de troc. Ils ont échappé à tous les bouleversements technologiques et là, ils les assimilent pépère. Alors, ça fait il y a 20 ans environ, le roi a décidé d'unifier le pays parce que on y parlait une douzaine de dialectes différents. Et il a choisi le Dzongka. Alors ça, c'est la version anglaise. Hein, c'est, j'ai pas trouvé la version française. Alors Dzongkha.
Et non, c'était pour préciser un petit truc. Par exemple, comme la Chine a pris le Tibet, par ouais. exemple. Donc pourquoi ils auraient pas pris le Bhoutan?
Parce qu'ils ont pas réussi. Moi, je suis sûr.
Parce que le Bhoutan, en fait,
sur la gueule, c'est des sauvages.
Non, je connais la réponse. Non, c'est pour ça. En fin de compte, c'est tout simplement parce que le Tibet a fait du protectionnisme et c'est donc. C'est bloqué par rapport aux pays extérieurs, alors que le Bhoutan jamais. C'est-à-dire, il laissait tout le monde rentrer.
Ouais, ouais, mais oui, mais enfin, bon, d'un côté, personne ne venait.
Et personne ne voulait y aller, parce que nous, enfin, c'est vrai, on a vu les images, il n'y a rien à chiquer. Hein.
Ah non, il n'y a rien à piquer au Bhoutan. Il y a en fait les quelques voyageurs qui sont arrivés au Bhoutan, on a l'impression qu'ils sont perdus en route, quoi. On s'est perdu entre deux cols dans l'Himalaya, on est arrivé au Bhoutan.
Bah, c'est comme les Galapagos, mais en moins joli. Non, pardon, l'île de Pâques. Parce que l'île de Pâques, c'est pareil, on y va par hasard, à l'origine.
Oui.
Parce que où c'est situé? Dans les Cyclades, etc. Non, excusez-moi, je meuble et je dis n'importe
non,
quoi.
Non, vas-y.
Ah, mais il est trop tard là pour l'île de Pâques.
Un peu de géographie n'a jamais fait de mal à personne.
Non, mais parce que on y va. Donc, l'île de Pâques, comme elle est située à l'extérieur de toute route, et complètement nulle part, en fin de compte, les premiers, c'est le capitaine Cook et puis je sais plus qui, quand ils sont arrivés, c'était vraiment totalement par hasard. Et donc, après, c'est parce qu'il y avait une culture locale, des grosses statues, les Maïs.
Oui, bon, c'est
pour en dire un petit peu.
Un petit peu, là, si je pouvais repartir sur mon Dzongkha. Bah,
il suffit de me couper.
Bon, alors je te coupe. Donc, je repars sur mon Dzongkha. et qui était donc un des 12 dialectes du pays, mais parlé par un quart de la population. Donc, ça, c'était il y a juste 20 ans.
C'est le quart qui allait dans le patelin.
C'est bien là le problème. C'est que ça ne fait que 20 ans que ça existe. Et donc parmi les acteurs qui sont arrivés pour le tournage, et en fait ils étaient très peu à parler déjà ce langage, donc il a fallu leur apprendre. Le roi aussi a fait créer une forme d'écriture parce que c'était un langage c'était juste une langue orale, pas écrite. Donc il a fait faire des recherches. Donc ça fait un peu moins de 20 ans maintenant qu'on peut écrire le Dzongkha. Ça fait à peu près 20 ans qu'il y a donc une forme d'écriture. Et alors, encore plus fort, c'est que le premier dictionnaire officiel Dzongkha a été rédigé pendant le film dans la maison du directeur de casting.
Magnifique.
Par le maître d'école, non?
Non, ben je sais pas, c'est pas précisé, je veux pas te dire. Alors, il y a aussi un autre truc assez rigolo, c'est qu'il mélange vraiment technologie et tradition. Alors, il y a un grand nombre des décisions de production qui ont été prises par la voix du mot. La mot, c'est une ancienne méthode de divination qui est pratiquée par des lamas, mais des grands lamas. Hein,
c'est la contraction de météo.
Le lama qui crache ou...
Non, les lamas qui prient. Alors, grâce aux mots, ils ont pu choisir leurs acteurs principaux, l'équipe de tournage, et même déterminer le premier jour le plus favorable pour le tournage. Je ne sais pas si ça leur a donné la météo et machin, mais bon, c'est comme ça qu'ils ont choisi le premier jour de tournage. Bon, évidemment, vous vous en doutez, il y a eu pas mal de cérémonies religieuses aussi qui ont eu pour but d'éloigner les démons, les obstacles, apporter des bonnes fortunes, etc., etc. Bon, cela dit, tout ça, c'est bien beau. C'est pas avec un pays aussi jeune qu'on fait des films, quand même. Donc, c'est une coproduction. Le négatif a été développé à Bangkok et la post-production a été assurée en Australie. Ce qui vous expliquera pourquoi, si vous voyez le film, il y a beaucoup quand même de noms à consonance anglo-saxonne dessus. Mais bon, je vous recommande vivement d'aller le voir parce que c'est quand même assez impressionnant.
Ça passe où ?
À Paris, il passe encore dans deux salles. Il est prévu sur des festivals, je crois qu'il a même eu
des festivals.
Bien sûr. Il a eu des nominations.
Ouais, le titre, tu peux le rappeler déjà ?
Rappelle-nous le titre.
Le titre s'appelle Voyageurs et magiciens.
Voyageurs et magiciens.
Voyageurs et magiciens. Et alors, comme site, je vous propose donc http://amidubouton.free.fr/page/bouton.htm. Je répète donc http://amidubouton.free.fr/page/bouton.htm ou alors directement www.travelersandmagicians.com et voilà.
Bah là, au niveau sensualité, on est un petit peu calmé.
Vous êtes un peu calmé, mais
ça
n'empêche,
va mieux ton érection.
Voilà.
Là, c'est tout passé.
Et moi, j'avais compris la pluie et le bouton. Alors le bouton, j'ai ouais. Et la pluie.
Il y a une scène de pluie dans le film. Il y a une scène de pluie, je vous assure. Allez voir le film, vous verrez. Je ne suis pas sorti la chronique.
Donc alors, c'était ta conclusion.
Ouais, c'était ma conclusion.
Et bah,
allez
Flo,
voir, c'est grandiose.
Bah, on n'y manquera pas. Merci beaucoup. On l'applaudit. Maintenant qu'il a fini de rouler sa cigarette, nous allons passer à Numa.
J'ai pas eu le temps de me servir un verre de vin.
Bah c'est pas grave, ça tu peux parler en même temps.
C'est bon.
Donc alors toi, tu vas nous parler d'une magnifique BD.
Oui, une bande dessinée.
Non, faut pas mélanger,
c'est le même.
C'est le même. C'est le vin, bon, faut pas mélanger, enfin vous comprenez ce que c'est.
Bah oui, faut pas mélanger. De l'Éternaute, donc une bande dessinée, donc une fois n'est pas coutume.
Non, puis c'est pas la première fois non plus.
Non, parce que moi j'aime bien la bande dessinée. J'ai fait une comptabilité rapide, il doit y en avoir approximativement entre 400 et 500 dans l'appartement.
Ah oui, c'est tes tapis.
Oui, ce sont mes tapis. Mais bon, dans le lot, il y en a des pas très intéressantes. L'Éternaute de Alberto Breccia et de Osterheld, donc le scénariste, et Breccia qui fait le dessin. Mais donc avant tout, je vais commencer par un poème qui n'est pas de moi. Qui parle entre autres choses de la pluie. Donc c'est un poème de saison. Je devrais dire même plutôt. D'époque, puisqu'il se nomme Barbara.
Eh ben allons-y.
Rappelle-toi, Barbara. Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante. Sous la pluie, rappelle-toi, Barbara. Il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisé rue de Siam. Tu souriais, et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas. Rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait, et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie, et tu t'es jeté dans ses bras. Rappelle-toi cela, Barbara, et ne m'en veux pas si je te tutoie. Je dis tu à tous ceux que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas. Cette pluie sage et heureuse, sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant. Oh Barbara, quelle connerie la guerre! Qu'es-tu devenu maintenant sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang, et celui qui te serrait dans ses bras, amoureusement? Est-il mort, disparu, ou bien encore vivant? Oh Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, comme il pleuvait avant, mais ce n'est plus pareil et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil, terrible et désolée. Ce n'est même plus orage, de fer d'acier, de sang, tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien.
Bravo!
Ah oui, t'es en forme, hein?
Jacques Prévert.
Oui, donc c'est tiré donc de paroles de Jacques Prévert, donc un truc que tout le monde doit avoir dans sa bibliothèque.
Bah évidemment, ah bah, oui, sur son canapé. après l'avoir jeté
par la fenêtre. J'ai raté le canapé. Donc sur ce,
c'est pas vrai,
donc...
il a pas raté le canapé.
Mais non, mais c'est une blague. Une blague à tabac. Donc sur ce, revenons à l'Éternaute de Brescia et Osterheld. Donc comme le dit Charles Lee, une fois n'est pas coutume.
Alors on était tous occupés, on n'a même pas pu réagir. Ouais. Une et qui pourtant, buvait du vin, l'autre qui mangeait son pâté.
Voilà, donc je vous parlerai donc de bande dessinée et notamment de ces deux types, Brescia et Osterheld. Brescia pour le dessin et Osterheld pour le scénario. Donc l'un est né en 1917, donc c'est Osterheld, l'autre en 1919. L'autre Brescia pour celles et ceux qui n'ont pas suivi. Je sais pas si j'ai été clair.
Oui, vas-y, tu peux recommencer dans l'ordre un peu.
Bon, donc Brescia pour le dessin et Osterheld pour le scénario. L'un est né en 1917, Osterheld, l'autre en 1919, donc l'autre Brescia pour ceux qui n'ont pas suivi.
Ah bah ouais, c'est
vachement plus clair, merci. Ouais.
Bah, de rien.
Donc l'autre c'est Brescia.
Bah voilà.
Et ceux qui n'ont pas suivi, c'est nous.
Ben voilà.
Ouais. D'accord.
Aussi. Donc Osterheld, donc qui a créé notamment. Alors là, ça va parler peut-être à quelques-uns. Il c'est Sergeant Kirk. Non.
Plaît-il?
Avec un type qui s'appelle Hugo Pratt.
D'accord, ça va mieux. Donc, oui, répète ton titre là.
Ben c'est le titre. Ben je suis désolé, je parle pas bien l'italien. Moi. Il Sergeant Kirk. Le sergent Kirk.
Ah, d'accord.
Oui, mais oui, on le connaît en français, mais la version originale.
Et c'est un rapport avec Hugo Pratt?
Non, il a travaillé avec. Enfin, il a fait ça avec Osterheld, a été le scénariste. Il a travaillé avec Hugo Pratt sur ça, en 1953. Voilà. En 1957, donc Brescia, qui est enseignant à la Escuela Panamericana de Alte.
Joli accent.
Merci. Enfin, donc c'est là où il va rencontrer Pratt, parce que Pratt à ce moment-là était enseignant lui aussi. Et voilà. Et donc c'est là aussi que Brescia va rencontrer Osterheld. Donc avec ce dernier, et donc ils vont produire Sherlock Time. Donc ça c'est un truc super bien en BD, mais bon c'est pas facile à trouver, mais c'est bien quand même. En 1962, ils poursuivront leur collaboration en créant Mortzinder, alors une BD. Du tonnerre de Dieu que tout le monde devrait avoir dans sa bibliothèque aussi, mais il n'y a que moi qui l'ai, visiblement, ici.
Ouais, non, j'ai pas.
Non, pas de Mortzinder. Donc...
Et je l'aurai une fois que tu me l'auras. Oui, je l'aurai une fois que tu me l'auras prêté.
Ah, ouais, mais c'est en trois. Moi, je l'ai en trois tomes, c'est sorti en plusieurs, mais moi, je l'ai en. J'ai la version intégrale, en fait.
Bah, il n'y a pas de problème.
Et c'est très bien. Donc, puis en 1969, avec Brescia Enrique. Donc le fils d'Alberto, donc ils vont faire une biographie de Che Guevara, donc laquelle sera, comment dirais-je, séquestrée quelques jours après publication, puis détruite par le gouvernement du général Anganya, parce que c'était pas un type très gentil.
Bah sûrement.
Ouais non, bon, visiblement. Donc tout ça pour une bande dessinée, donc c'est pas terrible quoi. Bon donc et c'est aussi en 1969 qu'Armstrong marche sur la Lune.
Bah oui, c'est vrai.
Oui, mais on s'en fout, car en 1969, Rigaud passe son bac. Mais là, non, n'est pas le propos. En 1969, Osterheld demande à Brescia de dessiner.
Private une... joke.
Ben on peut, hein, des fois oh. Qu'ils écouteraient. Osterheld demande à Brescia de dessiner une nouvelle version de l'Éternaute, ce qui suppose qu'il y en avait une avant. Et donc, ben j'ai cherché un petit peu parce que je l'ai jamais vu dans les magasins. Et donc, tout ce que je sais, c'est qu'elle a été dessinée par Francisco Solano Lopez, un dessinateur donc argentin que je ne connais pas.
Bah, moi non plus.
Ben voilà, mais donc, ben maintenant c'est fait.
Bah, c'est pas sûr que je m'en rappelle.
Je peux répéter. Francisco Solano Lopez. Si ?
D'accord.
Voilà. Donc là, il n'y a pas beaucoup de chance parce que donc quand ils font ça tous les deux, il y a des lettres de protestation de la part des lecteurs. C'est très bon signe, parce que là, il publiait dans une revue, donc épisode par épisode. La rédaction demande aux auteurs de changer la forme, d'une part, et le contenu.
De refaire une autre BD, quoi.
En gros, ouais. Maintenant, tout simplement parce que la BD dénonce le système politique de l'époque. Donc, comme tous les deux, ils sont un petit peu têtus, ils refusent. Et c'est pourquoi l'histoire se conclut un petit peu prématurément. Ce qui est un petit peu dommage, mais pas trop. Enfin, ça reste largement supportable comme ça. Mais c'est vrai, on sent qu'à la fin, ils ont été un petit peu coupés. En 1972, le Mortzinder et l'Eternaut sont publiés en Italie, parce que tout simplement, Brescia a vu que dans son pays d'origine, c'était pas terrible pour publier les bouquins, et puis la censure faisant son ouvrage en Europe, c'est vachement plus sympa. Ben oui, hein, c'est comme ça.
Même en Italie.
Même en Italie en 72. Et ben ouais.
Bah oui, non mais.
Affolant.
Nous le notons.
Eh oui, nous le notons, comme disait Amélie. Donc en 1976. moi si, j'ose tout. En 1976, la dictature s'installe en Argentine.
Et moi j'ai mis 10 secondes à comprendre. C'est pas grave.
Bon, là, on va reprendre parce que c'est quand même
en
assez
1976,
dramatique.
T'en
étais. Oui, bah oui, non mais c'est pas pour ça, c'est tout simplement, laissons tomber un petit peu les rires, parce que en 1976, la dictature s'installe en Argentine, donc déjà c'est pas drôle, Osterwald est enlevé et il disparaît.
Donc, on l'a jamais revu.
Ben non. Donc je suppose qu'il doit être en Irak actuellement.
Oui, il a dû mourir dans une prison irakienne, comme on disait avant l'émission.
Oui,
on rigole aussi avant l'émission.
Oui, et après.
Oh là là.
Voilà, et donc à cette époque-là, Brescia reçoit des menaces de mort aussi. Pas rigolo. Hein. Donc, mais quand même, parce que c'est visiblement, il est un petit peu têtu quand même. Donc il dénonce tout de même la dictature en place, donc notamment dans Buscavidas et son Dracula. Donc,
non, parce qu'en fait, pour ceux, parce que je désespère pas être le seul à avoir mis du temps à comprendre, c'est Noton, Amélie Notombe. Non, je voulais préciser, parce qu'on sait jamais, des fois que je serais pas le seul. Il y en a plusieurs, si tu peux, tremblement, par exemple.
Je pense que c'était exemple. Ça.
Voilà, ouais. Mercure, etc. Ouais. C'était ça. Donc en 1990, 86, pardon, il va publier donc Pyramus. En 89, Pyramus est primé par l'Amnesty International. Et Brescia meurt en 1993 et à l'heure forcément où on commençait à reconnaître son talent, mais il est mort.
Il a eu la chance, il a vécu un petit peu vraiment qu'on reconnaissait son talent.
Oui, non mais il en a un petit peu profité. Mais bon,
il était en train de manger une olive, c'est pour ça qu'elle a une voix un petit peu bizarre.
Mais bon, il a quand même vécu dans un pays pas forcément très drôle pendant quelques temps.
Toute sa vie.
Ah, ouais. Et puis après quand tu perds tes amis qui sont pris, c'est pas rigolo quand même. Ça casse l'ambiance un peu, on dirait.
Bah ouais, là tu plombes tout. Hein.
Ouais, je suis désolé. Bon,
je ferais mieux de parler de la pluie et du beau temps.
Ouais.
Du coup, on va remanger des olives.
Ouais, vous avez raison. Donc l'Éternaute. Alors donc ça parle de quoi quand même. Donc l'histoire commence. Donc c'est un scénariste de BD, donc qui travaille chez lui. Jusque là c'est pas très compliqué. Lorsque devant lui apparaît un homme, voilà, après on va découvrir c'est l'Éternaute, et donc celui-ci va lui raconter une histoire. Et donc ça parle de partie de cartes le samedi soir entre amis, donc là ça commence bien, et puis, pour être dans le thème, il y a la neige qui tombe, une neige tueuse, et si elle vous touche, mais tout simplement vous mourrez.
Ah oui.
Ah oui, mais c'est pas super riqué.
Enfin, le thème c'était la pluie, le beau temps et on mourait pas, quoi.
Enfin, quoique des fois quand il fait beau, il y a des gens qui meurent.
Oui, tu vas faire mal à Raphaël. Hein. Ne remue pas le couteau dans la plaie.
Et quand il pleut trop pareil, il y a des gens qui apprécient mal. Hein.
Donc.
Là il neige.
Là il neige et c'est pas super rigolo. Donc, ça c'est juste pour donner le départ de l'histoire, mais après ce qui est intéressant c'est enfin pour moi, peut-être que les autres pourront en parler, donc c'est le graphisme utilisé par Brescia, donc qui s'autorise un petit peu plein d'expérimentations, donc à savoir des collages, des retouches, des lavis, plein de choses, c'est-à-dire que lui, donc c'est ce qu'on voit quand on lit un petit peu tout ce qu'il a produit, c'est-à-dire il choisit son style de dessin en fonction de l'histoire qu'il a racontée.
Voilà, et donc là, c'est plutôt sombre.
Bah c'est, ouais. C'est même très très sombre.
Oui, mais bah, Brescia c'est toujours du noir et blanc, donc
ouais,
déjà
ouais, mais,
forcément
non,
ça redoute.
Même par rapport, même Péramus, si tu veux, en fait, c'est, il faut avoir envie, quoi. Enfin, faut être dans l'humeur pour. Faut pas être en grosse déprime, sinon c'est cuit.
Ah, mais non, faut pas lire en grosse déprime, ça.
On me dirait que ça a été fait un petit peu au fusain. Enfin, c'est.
Entre autres, oui, mais il y a
ça
pas
ça ressemble
que...
à de, oui, quelqu'un qui fait des essais avant de faire un tableau. Ou, enfin, c'est.
Bah, je pense c'est que ça doit être. Je pense comme, que les esquisses 13, doivent, mais... effectivement, comme tu dis, doivent être faites au fusain. Puis après, c'est du remplissage.
Mais il utilise beaucoup. Non, c'est, il utilise beaucoup de techniques.
Oui, mais d'ailleurs,
et c'est tout mélangé.
Tu nous l'as montré juste avant l'émission. Effectivement, on s'aperçoit qu'il y a tout au long de la bande dessinée, voilà. Il y a tout un tas de techniques différentes qui sont utilisées.
Et choisi avec donc des plantes. Donc il y a des plantes super intéressantes. Donc ça, c'est au fil de la lecture,
ouais.
On s'en rend compte par rapport évidemment aux propos tenus, où il utilise vraiment des plantes d'une puissance vraiment phénoménale.
Bah, et pour en revenir en fait de là où on était parti, c'est que finalement, effectivement, il y a plus de noir que de blanc. Finalement, c'est surtout noir.
Oui,
c'est,
mais la BD est sombre. Donc
voilà.
Il ne faut pas oublier qu'il dénonce un régime politique en même temps à l'intérieur.
Ben voilà. Non, mais à travers le dessin, finalement, ce qu'on retient, c'est ce côté sombre et à travers ce noir qui est traité tout au long de la BD.
Donc, ouais, et donc il y a ça. Donc d'une part qu'on voit au niveau du graphique, et aussi quelque chose de très intéressant, c'est son choix de narration qui est pas du tout classique. Donc là aussi, donc il y a quelque chose, on va dire d'avant-gardiste, même si c'est vieux. Mais il y a des gens qui pourraient s'y intéresser, même encore aujourd'hui. Et donc ça rappelle un petit peu les choix littéraires donc de tous ces écrivains argentins qui ont choisi des modes de narration. Donc moi je pense essentiellement forcément à Borges, un personnage qu'on voit apparaître dans Péramus aussi. Oui.
Non, mais j'étais en train de repenser à la BD et j'ai. En fait, oui, c'est pas une BD avec du texte qui remplit ou autre. En fait, le dessin et le texte sont très importants. En fait, c'est pas la BD belge, c'est pas.
Non,
c'est
non,
vraiment
c'est...
le début. Enfin,
c'est,
l'autre.
C'est pas Gaston,
BD...
là, c'est pas Gaston Lagaffe.
Ouais, ouais,
c'est... Faut pas s'attendre à ça. Et on a aussi un. Non, je veux dire, c'est pas fait pour. Je te vois créer, elle est en train de grimacer, mais c'est pas fait pour la même chose. C'est pas le même public qui est visé. Moi, j'aime bien Gaston aussi. Hein.
Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le dessin n'a pas la même visée que le dessin dans la BD belge.
Non.
Mais ça veut pas pour autant dire qu'il porte pas. Enfin, faut pas enlever la BD belge non plus qu'elle porte. Le dessin est super important et aussi porteur d'un message.
Bah, c'est vrai que là, ça n'a rien à voir. Moi,
ça
je
n'a rien à voir, mais
BD
c'est parce
que
c'est pas le même type de message qui est véhiculé à travers le dessin. Mais
moi, je n'ai connu la BD dans un premier temps que dans un côté BD humoristique où c'est plutôt pour se détendre, des couleurs vives, même quand c'est en noir et blanc dans Disney Parade où tu avais une page en couleur, une page en noir et blanc, où ça restait très gai. J'ai découvert après, notamment par l'intermédiaire du jeune homme qui parle, Numa, qui avait tout un autre type de BD qui justement s'apparentait plus à de la littérature entre guillemets, enfin des choses qui traitaient des sujets beaucoup plus graves. Et qui était tout aussi passionnante à lire et avec l'avantage qu'on pouvait lire plein de fois très vite.
Mais la BD est encore attachée un petit peu à ça, ou c'est comment on appelle ça, un mode d'expression auquel on voudrait faire dire que des choses non sérieuses, alors que ça peut aussi dire, comme tous les modes d'expression à mon sens, des choses plus ou moins dérangeantes, plus ou moins drôles, plus ou moins etc.
Puis même, ce qui est intéressant, si tu veux, c'est dans cette époque, je sais plus quand il a été fait celui-là, c'est quelle année,
c'est milieu des années 70, c'est ça,
par là, ouais.
C'est dans les débuts de cette BD en fait, un peu différente. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'il utilise même, et qu'on retrouve de plus en plus maintenant dans pas mal de BD, c'est presque une influence cinématographique dans la BD. En fait, on retrouve, on a des BD qui sont dans certains cas de plus en plus rythmés. Et là, c'est pareil. Il a, au lieu de passer d'une image à une autre, en recitant, par exemple, le truc vraiment que tout le monde connaît, c'est les BD Tintin. C'est super rare de trouver deux fois le même sujet sur la même vignette. Ou alors, c'est parce que Tintin vient de trouver la statuette et là, on a la statuette qui apparaît. Alors que non, quand on a deux fois la même vignette, c'est avec un peu plus de recul. C'est vraiment le zoom arrière. C'est ou le zoom avant, quoi. Il y a
un énorme travail de narration, de choix de narration. Mais aussi, on peut aussi parler rapidement du dialoguiste, donc Osterhel, qui apporte aussi beaucoup. Donc autant les images sont sombres, mais ça fonctionnerait pas s'il y avait aussi ce scénario, donc qui tient bien la route et des dialogues c'est pas que des dialogues. Flo, est-ce que tu peux m'aider ou pas?
C'est pas que des dialogues.
Mais non, tu sais, t'as les dialogues dans les bulles, et puis après, au-dessus, t'as des trucs qui racontent la scène. J'ai oublié le nom.
Oui, des vignettes.
Bon, mais des vignettes, oui, bon, c'était pas très important. Mais donc, s'il n'y avait pas ces deux choses qui fonctionnent parfaitement ensemble, où on sent aussi l'inspiration de Brescia et de Osterhel de leur lecture, notamment parce que Brescia a mis aussi en image le Lovecraft, on sent tout ça, et ils ont lu Wells aussi. Il y a tout ça dedans, donc comme s'ils avaient tout épongé pour recréer quelque chose vraiment de très personnel. Voilà. On en rajoute, on vous avez des choses à dire?
Bah moi j'ai quelque chose à dire. C'était ta conclusion?
Non, bah non, pas encore.
Ah.
Mais non, mais justement, on parlait tout à l'heure, ton mère parlait de la BD belge en tant que BD comique, qui s'opposait forcément. Je suis pas sûr parce que. Moi, je m'aperçois que finalement, il y a cette ancienne BD, tout en couleur, tout en comique, effectivement, oui, en situation rocambolesque.
Celle-là est aussi ancienne, c'est 72 ans.
Mais si tu veux, Hergé, c'est les années 50. Donc, pour citer Hergé, même c'est les années 40 et les années 50, je suis pas persuadé que c'était aussi léger que ça. Il y avait des tas de sujets qui étaient quand même alors peut-être pas Goscinny
mais
Hergé allait quand même ça avait quand même touché. Je suis pas persuadé que la note principale, notamment tu prends les bijoux de la Castafiore, donc t'as un sujet super futile, les femmes, les bijoux, machin chose, la femme, enfin pas les femmes futiles, pas la femme futile, mais la Castafiore, la futilité, machin chose, les bijoux, machin. Et quel est le truc important qu'on retient, enfin si on creuse un peu, parce que qu'est-ce qu'on retient un peu là-dedans, c'est il y a des bijoux de volée, c'est les Romanichel qui sont accusés. Alors après, quoi qu'on pense des Romanichel, moi je m'en fous, peu importe, mais quand même le sujet qui est abordé pour moi dans le fond de la BD, c'est ça. On peut pas dire que c'est futile parce que c'est présenté de façon rocambolesque et tout ça.
On n'a pas dit que c'était futile. Hein.
Non, c'est pas une question de futilité, la BD belge, si tu veux. C'est pour moi, c'est dans le traitement, en fait. Tu vois, le dessin qui est dans Brescia. Brescia, il utilise des collages, il utilise un milliard de techniques différentes. Il doit même y avoir de l'eau forte dans son truc.
Oui, il y en a aussi. Il utilise tout ce qu'il a à sa disposition.
Voilà,
oui,
alors que si tu prends les Lagaffe, les Tintins, les.
Il y a des gens qui utilisent les techniques des BD belges, comme.
Oui.
A priori, et qui font des choses. Moi, j'ai été assez impressionné par une BD que tu m'as prêtée, Numa, qui était Une vie ordinaire de Larsenet. Je ne me trompe pas.
C'est très, très impressionnant.
C'est dessiné, c'est très coloré, on reste toujours. Non, mais le sujet, enfin, c'est très, très impressionnant. On finit, on se dit, c'est pas une BD que je viens de lire, finalement. J'étais pas habitué à ce genre de choses.
Oui, mais là, Flo parlait de la BD belge. Déjà, on a quitté la BD belge.
Le style du dessin reste.
La BD belge, c'est vraiment un trait, si tu veux. C'est un trait. Tu sens, de toute façon, c'est un moment. Enfin, c'est eux qu'on fait éclater la BD, mais et ces moments, tu sens que t'es limité de toute façon par les possibilités d'imprimerie de l'époque. Et t'es à un moment, si tu prends les Tintins, t'as l'impression qu'on hésite entre la littérature et la BD, alors que là, plus on avance, plus t'as l'impression que l'image, elle sait parler d'elle-même. Cray, tu m'as l'air vraiment pas d'accord.
Cray, là,
absolument pas. Pas d'accord avec toi.
Et donc, on va
je suis désolé,
parler.
Mais je suis absolument pas d'accord avec toi. Je crois pas que justement, quand on connaît le niveau de perfectionnisme d'Hergé, on puisse parler de limite quand on voit Tintin. Quoi. C'est évidemment pas possible.
Mais
c'est pas un problème de.
limite, d'une limite au niveau de l'impression.
Mais j'ai bien compris que c'est pas un problème de limite. Mais moi, je persiste et je signe. C'est pas un problème de limite au niveau de l'impression.
Laflo nous parlait essentiellement du dessin, de la rondeur du dessin, qui est typique ARG.
Qui n'a rien à voir avec l'impression.
Beaucoup, il y a aussi eu quelques limites liées à l'impression à une époque que maintenant on a plus. Maintenant, on s'en fout. On peut faire n'importe quoi.
Oui, mais peu importe. ARG dessinerait aujourd'hui la même chose.
Oui, et c'est aussi.
Je sais pas si vous avez déjà vu des.
Non, mais c'est aussi.
Mais c'est parce que c'est devenu le style RG, c'est devenu la patte RG. Maintenant, si tu les regardes, ils ont tous plus ou moins une patte. Quand tu prends certains auteurs de BD, il y en a certains, je ne citerai pas, si tu veux, qui sont hyper désolants. Parce que tu prends 3, 4, 5 BD différentes, de séries différentes, tu retrouves les mêmes personnages, les mêmes traits. En fait,
Et c'est aussi quelque chose, moi, qui me dérange un petit peu.
C'est du genre d'Oski, c'est. Évidemment, mais.
Et donc, c'est aussi quelque chose qui me dérange un petit peu chez RG. Par exemple, si là, tout à l'heure, on parlait de. C'est bon, j'ai le temps. On parlait de Pratt, et j'ai pas senti. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'évolution dans le dessin. Donc, RG, tu prends tous les albums de Tintin, je sens pas beaucoup d'évolution dans le dessin. Alors, tu prends tous les albums de
c'est
Pratt.
C'est vrai.
Entre le début et la fin, donc le Sergent Kirk dont on parlait tout à l'heure. Donc ses premiers dessins et ses derniers, donc par exemple celui avec la disparition de l'aviateur de Saint-Exupéry, oublié Vol de nuit, donc entre les deux il y a un monde et
tu sens l'évolution de son dessin. Tu prends Corto Maltese, le premier Corto Maltese il ressemble à un super héros. À la fin de Corto Maltese, le dernier album Mu, tu il y a un minimalisme dans le trait, et en trois traits si tu veux il t'en passe énormément. Mais je dis pas qu'RG dessine mal, absolument pas si tu veux, mais il a ce côté littéraire. Il ne peut pas s'empêcher de mettre des bulles énormes. Moi quand j'étais gamine, je détestais RG à cause de ça, parce qu'il y avait des bulles énormes et un texte mais énorme aussi, 15 lignes au-dessus dans la même vignette pour te raconter ce qui se passe, plus le personnage qui court, plus le dialogue. Et alors pour moi, j'avais l'impression de lire un livre avec trois petites images dedans. C'était horrible.
Bah, je partage pas du tout ton opinion. J'en resterai là parce que on pourrait développer longtemps, mais je partage absolument pas ton opinion. Je trouve pas que les bulles d'Hergé soient si longues que ça. Et je pense aussi que les dessins d'Hergé, certes, ont gardé la même rondeur et la même rigidité. Enfin, quoique, on peut pas parler des premiers albums parce que sur les quelques premiers albums, il y a quand même une évolution. Et puis après, effectivement, au niveau du dessin, il y a une régularité.
Moi, c'est ce qui me manque un petit peu parce que
je suis d'accord avec toi. Mais je suis désolé, mais dans le mouvement, il y a énormément de changements. Dans le mouvement, dans les gestes, il y a énormément de changements. Et c'est vrai que une bulle comme ça prise dans les lotus bleus, c'est là que ça y est, Tintin commence à être figé. Et puis sur les derniers, sur les Picaros par exemple, effectivement le Tintin va être exactement le même. Mais dans le mouvement, il y a vraiment quelque chose qui est différent. Enfin bon, c'est peut-être pas le sujet trop.
Non, c'est pas grave. Mais par contre, évidemment, ça nous invite tous à relire Tintin.
Ben oui. Ouais.
Voilà. Moi, en tant que quelqu'un qui n'a jamais fait aucune analyse sur la BD, j'ai lu tous les Tintins aussi quand j'étais gamin.
Bah, c'est bien.
Et j'aimais pas les derniers, j'aimais pas. Je retrouvais plus.
Il y a eu
une histoire de dessin.
Il y a un essoufflement dans le scénario, finalement, parce que.
Je sais pas, il y avait.
Non, je suis d'accord.
Ça me plaisait pas une impression brute sans pouvoir l'expliquer.
Ou t'avais tout simplement grandi, parce que moi je sais que j'ai eu à un moment une grande cassure avec Tintin.
J'ai dû tous les lire à peu près en un an et demi, j'ai pas grandi.
Parce que moi, si tu veux, je les ai découverts.
Dépend d'où.
Nous, on les avait tous à la maison, si tu veux, donc je les ai lus, relus. Et un jour, j'ai une prof qui est arrivée, je devais être en quatrième, et qui m'a dit, mais de toute façon, Hergé était raciste. Alors moi, qui étais à fond Amnesty International, ça a été le drame de ma vie, quoi. Et après, j'ai repris Tintin, je me suis dit, mais il faut pas rigoler, quoi. C'est une époque.
Parce qu'il y a aussi un truc qu'on analyse toujours les choses il y a quand même il y a aussi une impression de base sans aucune analyse, sans connaître avant ce qu'a fait la personne. Et puis voilà, on lit, on aime, on n'aime pas, et puis peu importe ce qu'il ait fait avant, ce qu'il fera après, il y a aussi l'intérêt d'une première fois.
Mais c'est
de
toujours
dire
le problème
et découvrir
du passé.
Et
est-ce que je peux en placer une sur ma chronique? C'est toujours le problème du passé qu'on analyse toujours en fonction du présent. Et par exemple, c'est ce qu'on devrait faire en histoire, mais on peut pas étudier un fait historique ou très difficilement sans se référer un petit peu à notre présent, à ce qu'on connaît.
Oui, mais on peut ne pas analyser aussi.
Et oui, pas du tout.
C'est ce que
évidemment.
Je disais. Moi, je disais, on peut regarder, voir des choses, lire des choses, entendre des choses sans avoir de référence non plus.
Et donc, ça nous réinvite quand même à relire tous les albums de Tintin.
D'Hergé.
Tous les Hergé écrits par Tintin. Et surtout Milou.
Au passage, si vous avez envie de découvrir quelque chose de nouveau et puis dans le même genre que Tintin, enfin en tout cas par Hergé, c'est les Josette et Joko, c'est rigolo. C'est sympa. C'est gentil, mais
ouais,
bon,
c'est gentil, mais bon. Mais nous là,
en revanche, il y a le dernier Hergé, là, celui qui est le dernier Tintin qui a été publié, que j'ai pas regardé. Enfin, j'en ai aperçu quelques morceaux. C'est quel état de débauche en fait. Et pour le coup, celui-là est assez intéressant.
Mais il est intéressant, mais faites très attention parce que les quelques premières pages, Hergé avait fait un scénario très poussé avec des dessins très poussés et puis très vite c'est très approximatif et dans les dernières pages c'est carrément l'imagination
ça reste intéressant pour les historiens d'Hergé.
Exactement, ça reste très intéressant pour les historiens d'Hergé.
C'est une ébauche
pour les
de
fans
travail,
de Tintin vous allez être très déçus hein.
Pour le lecteur de base c'est pas intéressant
risque, alors,
et donc quand même on va en revenir quand même à l'Eternaute et à Alberto Brescia et Osterheld quand même. Donc il a fait plein de trucs. Donc Brescia, ce qu'il faut lire, c'est lui. En gros, on va faire un raccourci. Il y a trois trucs. Donc il y a l'Eternaute, Peramus et c'est quoi le troisième? Et Mortinder. Voilà. Et donc là, après, ensuite, évidemment, il a mis en image Borges, Poe, des nouvelles de Poe aussi, et Lovecraft. Il a fait ça aussi. Peut-être même, il a fait son Dracula aussi, qui est très bien. Donc là, je cite de mémoire, donc forcément, des fois, on en oublie.
Il a fait quoi? Son Dracula?
Un Dracula, ouais.
De Bram Stoker ou son Dracula, lui?
C'est son Dracula. Et avec la base, et il dénonce, c'est ce que je disais tout à l'heure, il dénonce aussi à travers, mais par contre en arrière-plan, la situation politique de son pays à l'époque. Donc c'est aussi intéressant pour ça. Donc il faut lire Brescia et tout ce qu'a fait Osterheld parce que c'est un très grand scénariste.
Ok.
Voilà.
Bah écoute, merci beaucoup.
Bah de rien. Et mon poème?
Bah vas-y.
Et voilà. Vous inquiétez pas, il est bref.
Ta-ta-ta-ta. Poème.
En ce qui concerne la pluie, les Anglais sont super forts.
Bravo.
Et au moins, il est dans le thème.
Et on applaudit Numa pour son poème et sa chronique. Merci beaucoup.
Mais de rien.
Ah, heureusement que je suis là pour applaudir. Hein.
Et ben voilà, ça commence à sentir la fin. Hein. La faim, la soif. Donc et ben voilà, c'était une émission sur la pluie et le beau temps. Il y a une
chose. La 15e.
Ouais, la 15e sur la pluie et le beau temps. C'était le 10 juin 2004. Et il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est tous les petits dictons qui peuvent exister sur la pluie et le beau temps. Il y en a quand même une quantité assez industrielle. On peut dire aussi autant qu'un curé peut en bénir. C'est pour vous donner un petit peu l'ampleur de la tâche.
C'est la BTO.
Donc je sais que toi, Numa, t'en as un qui est pas mal.
J'ai trouvé une petite perle comme ça. Donc c'est un magnifique proverbe. Il vaut encore mieux qu'il fasse mauvais temps que pas de temps du tout.
Voilà, donc on en revient à ce qu'on disait plusieurs fois. À chaque fois, vous parliez de la neige, de la pluie, mais.
Mais quand même, c'est quand on a des trucs comme ça sous la main, ça aide à vivre.
Ça laisse réfléchir.
Ah, ça aide à vivre.
Ah, bah ça là, il faut toujours réfléchir.
C'est ce que me disait mon miroir.
Ça là, je crois que je vais retourner boire un verre de vin.
Bah, tu peux rester assise, elle est là, la bouteille.
Et puis tu l'as à la main en plus. Hein.
Mais c'est vrai qu'il existe, un nom assez impressionnant de dictons sur la pluie et le beau temps, notamment tous les saints ont droit quasiment à leur. Alors, pluie et le beau temps ou tous les jours. Il y a notamment aujourd'hui, on est le 10 juin. Donc, moi, j'en ai fait un magnifique tout à l'heure sur la Saint-Landry, que je n'oserais pas répéter.
Où on mange des très bonnes salades, d'ailleurs. Ouais.
Mais il y a un vrai.
La Saint-Landry.
Un vrai dicton de circonstance qui est ciel du 10 juin boudeur, foin mal sec et sans saveur.
Ah! Mais j'irais pas goûter le foin, mais en tout cas,
faut aimer le foin, ouais.
Et c'est bien vrai. Et il y en a toute une série sur le beau temps, le mauvais temps. On va pas tous les citer, en citer quasiment aucun parce qu'ils sont pas terribles. Si je peux vous en citer quelques-uns.
Vas-y, vas-y.
Cite, on a une chier.
Pluie, voilà.
Non,
11. Une chier, c'est 12 moins 1 pour ceux qui ne savent pas.
Voilà.
Donc pluie le jour de la sainte opportune, ni cerise ni prune.
On n'est pas la Sainte Opportune ?
Non. Pluie de la Sainte Aurélien va durer jusqu'à la fin. Bon, ça reste un petit peu vague. Il y a des concepts assez philosophiques.
En général, quand il commence à pleuvoir, et ça s'arrête à un moment, donc ça dure jusqu'à la fin. Ouais.
Alors, il y en a une qui est pas mal. Il y a aussi Pluie de la Saint Bernard fait déborder la mare. Hein, ah, n'est-ce pas ? Joli, il y a un certain humour quand même. Et il y en a aussi pas mal sur le beau temps. Alors, il y a eu le beau temps de mars se paie en avril. Il y en a quelques-uns qui doivent la connaître. Beau temps à la Sainte Anicée et l'annonce d'un bel été.
Ah bah oui, tu m'étonnes.
Il y en a un pour la fille de Valérie Darty qui est beau temps à la Sainte Adèle est un cadeau du ciel. Parce que cette jeune fille s'appelle Adèle.
Oui, ils vont être contents.
Mmh. Ah bah, j'espère bien. C'est le 24 décembre. Hein,
ah mais c'est comme
la
moi.
La Sainte
alors.
Adèle.
Adèle, c'est comme nous.
C'est comme toi.
Moi, j'ai entendu un.
Il y a quelques petits proverbes bretons aussi qui notamment, qui est pas mal.
Je suis tout oui.
Alors, qui trop écoute la météo passe sa vie au bistrot. Bah oui, en Bretagne.
C'est pas con.
Bon, d'accord.
Il y a un proverbe anglais aussi.
Je confirme.
Qui va rejoindre un peu les lieux communs. Donc c'est un proverbe anglais. Dans sa bonté.
Saxon,
oui. Dans sa bonté infinie, Dieu a donné la pluie aux Anglais afin de leur fournir pour l'éternité un sujet de conversation.
Saxon.
C'est mon poème alors. Donc,
ouais,
en fait,
c'est ton poème.
J'ai rien inventé.
Tu n'as rien inventé. C'est Anthony Chester.
Je croyais que j'avais inventé un truc.
Et puis il faut quand même pas oublier le plus célèbre, celui qu'on peut pas éviter, qui est après la pluie vient le beau temps.
Oui,
que tout le monde connaît, ou après la pluie, le beau temps, le vient.
Et comme disait Reagan, après l'oubli vient le beau temps.
Non, mais à propos à propos d'après la pluie vient le beau temps, les Écossais ont une très bonne qui dit si tu ne peux pas voir les Highlands là tout de suite, c'est qu'il pleut, si tu peux les voir, c'est que ça va pas tarder.
Mon avis, Reagan n'est plus capable de la répéter celle-là.
Il y avait la même pour la tour de Pise. Hein. Si la tour de Pise penche à droite, c'est qu'il pleut. Si elle penche à gauche,
c'est que t'es de l'autre côté.
Voilà. Donc voilà.
Et bien voilà, l'émission.
Ah non, parce que quand même, il y en a d'autres.
Ah, bah, vas-y, on est plutôt.
Pluie du matin n'arrête pas le pot de vin.
Private joke.
Hein, bravo.
C'est
vrai, quoi qu'il arrive.
Parce que plus du matin n'arrête pas le Parisien non plus.
Pourquoi pas.
Un peu quand même.
C'est très vrai d'ailleurs, je trouve, finalement, au bout du compte.
Donc, et ben voilà. C'était fini. Non, c'est fini. Hein.
Non, ouais. Et quand c'est fini, faut se taire. Hein.
Voilà. Non, c'est jeudi.
C'est Finistère.
Non, c'est Finistère.
Ouais. Donc, comme d'habitude, nous allons remercier Monsieur Yann Beaujouan pour ses magnifiques jingles et petits intermèdes musicaux.
Oui, mais ce serait bien qu'un jour il la ferme la porte.
Oui, c'est vrai.
Waouh.
Clac.
On pourra la faire a cappella comme ça aussi un jour, ça pourrait être pas mal.
Oui, mais là on est chez moi là.
Ouais.
Vous m'évitez en fin d'émission à mon avis.
Donc voilà, alors la prochaine émission dans un mois à peu près, soit en juillet, où il fera beau aussi.
Il faut...
qu'est-ce que toi qui as lu la météo, quel temps il fera dans 15 000 ans en juillet?
En juillet.
Dans 15 000 ans, je sais pas, mais dans 3 semaines, il devrait faire.
Et dans 15 000 ans, ça fera combien d'émissions de Quoique au rythme d'une par mois?
Mais c'est pas un météorologue, il faut demander ça.
Ça s'est pas compté. Bon. D'accord.
Pas dans 15 000 ans, le nombre de Quoique que ça fera, et ben, si on compte à peu près 12 Quoique par an, 12 fois 15, et ben, ça devrait faire.
Micro n'est pas d'accord, il
c'est
tombe.
C'est pas la pluie qui tombe, c'est son micro. Et d'ailleurs, je voudrais aussi inviter tous les gens qui nous écoutent à nous laisser des commentaires sur le site. Ça serait très sympa pour savoir plein de choses. N'hésitez pas. Donc une petite information technique pour laisser un commentaire. Il y a un petit carré sur la gauche de votre écran où il y a déposer une dépêche, et ben vous cliquez là-dessus. On va vous demander d'écrire un truc, et ben vous écrivez un truc il passera sur le site. N'hésitez pas. Oui, non, parce qu'il faut s'administrer.
Donc je vais finir
tout passe. Vous inquiétez
pas.
Finir
le calcul, ça fera 180 000 chroniques.
Ben voilà, impeccable. Donc le sujet de la prochaine émission dans un mois, ça sera nous n'en avons pas la moindre idée.
Ah, ça c'est bien comme sujet.
Hein. Donc, et nous vous attendons nombreux. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Dites au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.